Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'écoute d'un nouvel épisode de Comics Weekly. Nous sommes le 24 janvier, nous avons préparé une sélection de gros blockbusters cette semaine. Tout d'abord, chez Marvel, nous verrons le retour d'Uncanny Avengers après quelques semaines de retard, la suite d'Avengers par Hickman, le vrai début de FF, mais aussi deux nouvelles séries, Uncanny X-Force et Young Avengers. Chez DC, il en est de même puisque nous parlerons de Justice League face aux forces d'Atlantis et ferons un tour des autres grosses franchises, Green Lantern, Batman et Superman. Enfin, l'indé ne sera pas en reste, avec encore une fois cette semaine quelques petites pépites à se mettre sous la dent. Je suis Steve et vous écoutez le 130e Comics Weekly. Avec moi cette semaine pour parler des sorties VO, Mister René Bunny.
Bonsoir à toutes et tous.
Et Kinghead.
Ouais, salut à toutes et tous.
Nous sommes que trois cette semaine, en petit comité, mais il y a des grosses sorties à prévoir et on va commencer tout de suite avec Marvel, la sortie du Uncanny X-Force numéro 1. Benny, tu nous en parles.
C'était de la merde. Non, je plaisante. Oui, alors donc on retrouve, enfin on retrouve pas d'ailleurs, Sam Humphries est au scénario. Donc Sam Humphries qu'on a vu sur Ultimates, je crois, chez Marvel.
Oui.
Et Ron Garney est au dessin. Graphiquement, Ron Garney, je trouve, a un petit peu changé son style. Je l'ai pas forcément retrouvé.
Faut dire qu'il est entré par, il est ancré par Danny Mickey cette fois-ci, donc peut-être que ça explique aussi cela. Hein. D'habitude, il s'ancre lui-même.
Ouais. Donc j'ai pas vraiment retrouvé le Ron Garney que je connaissais, mais néanmoins, c'est quand même plutôt pas mal graphiquement. Alors, le scénario, c'est la
Bonne
suite,
chance.
On va dire... Ouais, bah c'est un peu la suite directe de d'Uncanny X-Force précédent volume, c'est-à-dire que on retrouve quand même Psylocke, qui est un petit peu la dernière du groupe démantelée. Et au fait, elle est avec Storm sur la piste de... Bah, au fait, on va le révéler, on la voit sur la couverture en plus. Il y a Spiral qui distribue une drogue. Au fait, la drogue a pour effet de faire que les gens qui la prennent sont apparemment petit à petit contrôlés par un seul et même esprit.
Et voilà, donc ça fait une espèce de ruche, tout simplement, de mentalité,
ouais,
de ruche, quoi.
Voilà, une ruche humaine, pourrait-on dire. Alors, est-ce que il y a du mojo derrière ou est-ce que ça n'a rien à voir? Je ne sais pas. Toujours est-il que Psylocke et Storm vont se rendre dans une boîte de nuit où officie justement Spiral, si on peut dire. Et il y a une ambiance assez, enfin une mise en scène assez, j'ai trouvé assez film d'action, quoi.
Oui, complètement, ouais.
Voilà, avec même la petite scène où elles vont voir une sorte, on va dire, d'informateur, pourrait-on dire.
Et quel informateur?
Et quel informateur, on va pas révéler qui c'est, un personnage Marvel qu'on a pu voir il y a pas si longtemps, mais ça fait toujours marrer de le revoir. D'ailleurs, je pensais qu'il n'était plus parmi nous,
il était mort, mais il est revenu suite aux événements de Chaos War.
Ah, c'est ça, voilà, d'accord, bah, j'avais loupé. Oui, c'est vrai, maintenant je m'en rappelle en plus. Et puis parallèlement à ça, au fait, dans les dernières pages, on assiste au retour de Bishop. Alors je le dis parce que de toute façon ça a été sollicité maintes et maintes fois, c'est un petit peu le pitch de la série, Bishop est de retour. Et on voit aussi ce qui est arrivé à Phantomex.
Une scène très perturbante sur la fin, je trouve.
C'est vrai, ouais, une scène qui pose la question.
En fait, après tu te demandes, tu te demandes au niveau des préférences sexuelles, est-ce que c'est normal? Est-ce que finalement c'est de l'inceste? Est-ce que...
Oula, ça attise ma curiosité, c'est moi qui l'ai pas lu.
C'est vraiment bizarre.
Ça a l'air bizarre, le truc.
Je sais pas quoi en penser, quoi. Et en même temps, j'ai envie de dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Comprenne qui pourra.
Ouais, je pense que...
D'accord,
je crois savoir,
mais de quoi tu parles.
Voilà, je pense que tu peux comprendre. En tout cas, j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé ça sympathique comme démarrage. Maintenant, il est vrai que faudra aller voir la suite pour savoir comment il va lier un peu tout ça, on va dire. C'est-à-dire que là, on a différents ingrédients et faut après qu'il fasse sa sauce et qu'il mélange un peu tout ça parce que bon, on a trois trucs un peu différents. Comment tout ça va converger? On verra dans les prochaines parties. En tout cas, j'ai plus aimé ce numéro 1 que le X-Force Cable and X-Force. Indubitablement, quoi. C'est vraiment, ça m'a plus accroché.
Ouais, c'est clair que là, on est plus proche du concept d'Uncanny X-Force développé par Jason Aaron. Hein. Rick Remender, pardon.
Ouais.
Moi, en fait, les deux petits points négatifs, c'est que Combat, comme tu l'as dit, ça part un petit peu dans tous les sens. Et on n'a que 20 pages. Et donc, l'autre point négatif, c'est qu'on a un goût de trop peu. Alors, oui, j'irai voir le 2. Oui, je trouve que c'est une bonne lecture. Mais mine de rien, j'ai envie de dire aussi, pour un nouveau lecteur, c'est quand même assez ardu. Je pense pas qu'un nouveau lecteur puisse prendre cette série comme ça et tout comprendre d'emblée et ne pas être complètement perdu, quoi. Parce que, bah, comme tu l'as dit, le retour de Bishop, il y a intérêt à avoir lu des comics Marvel depuis plus de 3 ans pour se rappeler de qui c'est, quoi.
Mais par contre, en fait, ce qui m'a agréablement surpris et ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est que c'est le vrai retour de Psylocke et Storm. Ça faisait des années que j'avais pas lu une histoire où vraiment les deux nanas étaient mises en avant, mais de la bonne manière. J'ai envie de les suivre. Alors que ça fait des années que Storm, elle joue la figurante avec aux côtés de T'Challa. Je trouvais qu'elle servait plus à rien. Psylocke, pareil, j'étais pas emballé quand je la voyais. Même dans Uncanny X-Force, je trouvais qu'elle était assez effacée comparée au reste de l'équipe. Et là, vraiment, elle prend les devants. Et j'ai bien aimé leur prestation à ces deux personnages. Donc, non, franchement, pour moi, ce sera un bail. Pas un ultra bail, mais un bail.
Pour moi, pareil.
Je suis plutôt emballé.
Pareil, un bail aussi pour moi. Bonne petite série, il faudra voir comment ça continue. On va continuer, alors là maintenant il va falloir éviter de se perdre dans les titres parce que ça devient très compliqué puisqu'après Uncanny X-Force on passe à Uncanny Avengers numéro 3. Kinget, tu nous en parles.
Oui, donc le numéro qu'on attendait depuis très longtemps puisqu'il a été pas mal retardé. Donc c'est scénarisé par Rick Remender et c'est dessiné par John Cassaday. C'est la confrontation entre l'équipe de Red Skull, donc les S-Men, contre cette équipe d'Uncanny Avengers qui est formée à la fois de X-Men et d'Avengers. Le Red Skull est en possession du cerveau de Xavier, il se l'est greffé, donc ça lui permet de pouvoir changer la mentalité des gens autour de lui, de les inciter à faire ce qu'il désire. Et en fait, ce qu'il désire, c'est que la population se retourne contre les mutants et extermine en fait les mutants. Donc c'est un Red Skull nazi qui s'en prend aux mutants. C'est un John Cassaday qui est pas en très grande forme, hein, on va dire, c'est pas très très beau. Par contre, au niveau du scénar et de l'écriture, j'ai trouvé ça pas mal, plutôt plaisant, surtout dans l'introduction des différents personnages. Des personnages très bizarres, hein. Chez les S-Men, on a Dancing Water, la fille avec la tête de bouc, c'est des personnages complètement strange, mais il arrive en quelques cases à donner leurs origines, à expliquer un peu leurs pouvoirs. C'était quelque chose qui manquait, parce que jusqu'à présent, ces méchants me paraissaient vraiment très bizarres et étranges. Donc voilà, après j'ai trouvé la fin sympathique avec Red Skull qui est content parce qu'il a mis en son pouvoir un personnage très aryen. Donc vous verrez de qui je parle. Et voilà, mais je dirais un check-it moi parce que bon les dessins c'est bof. Mais je sais que Bunny lui considère ça comme un très mauvais comics.
Je vais peut-être laisser parler Steve.
Ouais, je t'en prie, vas-y.
Bah au fait pour moi, tu vois, il y a le fameux point Godwin donc que Crâne Rouge doit dépasser allègrement au moins 10 fois par jour. Bah là au fait pour moi Uncanny X-Force numéro 3, non Uncanny, je me gourre en plus. Uncanny Avengers numéro 3 pour moi c'est le degré 0, c'est vraiment le comique, c'est tout ce qu'il faut pas faire dans un comic mainstream, c'est vraiment la nullité à l'état même.
Mais pour toi c'est le maître étalon de ce qu'il ne faut pas faire quoi.
C'est ça parce que au fait,
je te trouve un peu extrême. Hein.
Ah non, pas du tout, non, parce que, au fait, j'aurais peut-être pas cet avis-là si on n'avait pas eu ce retard inadmissible pour ça en plus. C'est-à-dire pour un truc vraiment, mais à chier, j'ai trouvé ça, mais mauvais, c'était, oh là là, j'ai lutté pour le terminer et je n'ai pas. Alors, je suis même allé voir les crédits. Parce que j'ai même douté que c'était Remender et qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre avec lui qui l'avait aidé sur la fin ou je sais pas. Enfin, j'ai cru lire du Claremont, mais de maintenant, c'est-à-dire qu'il présente les personnages d'une manière datée d'il y a 20 ans. C'est vraiment mais rétro, mais dans le mauvais sens du terme. C'est mal écrit, j'ai trouvé les répliques mais ridicules avec Havok qui dit à Captain America, vas-y, va faire ton Captain America. Il dit à Wolverine, vas-y, va faire ton Wolverine. Mais vas-y, tiens, va faire le chien. Oh, va faire le kangourou. Non mais attends, mais sérieusement, c'était quoi ces répliques? Et puis leur tête aussi. Alors, John Cassaday qui a un retard monumental et qui nous dessine ça, mais c'est un scandale. Ils ont des têtes atroces sur certaines pages.
Je pense qu'il
c'est
a rushé hein, sur la fin.
Inexpressif. Les corps sont statiques, on dirait des figurines posées les unes à côté des autres. Je pense qu'il l'aurait fait en prenant des figurines en plastique, en les faisant prendre la pose. Ça aurait été plus expressif que ça. Et plus... Enfin, il a
Je crois
révolutionné...
qu'on a compris, hein.
Non, attends. Il a révolutionné la nature morte.
Bon, je crois qu'on a compris, c'est un bail pour toi, c'est ça?
Ce comic est un mime à la médiocrité. C'est mal écrit, non inspiré, déjà vu, mal dessiné, avec du retard. Les répliques sont les plus pourries que j'ai jamais vues depuis longtemps. C'est une honte, une hérésie, un scandale. C'est un hide it pour moi. C'est un hide it. C'est-à-dire que c'est le comic qu'il faut donner à la rigueur à ceux qui l'ont commandé sous le manteau, tu vois, genre, tenez, je vous ai mis votre Uncanny Avengers. Voilà, hop, on n'en parle plus.
Ça va, ça t'a défoulé de...
Ah oui, non mais c'est pas possible. Et puis même dans les situations, c'est du déjà vu, mais 40 000 fois, la population qui se retourne, qui devient hystérique, on a déjà vu ça dans Fear Itself, on a déjà vu ça dans plein de trucs.
Oui, mais bon, en même temps, le fait de l'avoir déjà vu, ça empêche pas de pouvoir le refaire, quoi.
Oui, mais la manière de le
faire... Si on ne devait plus jamais faire un comic qu'on a déjà vu, je pense que l'industrie du comic serait morte depuis les années 60.
Là, il n'y a rien, si tu veux, de novateur pour un truc qu'on a tellement attendu. C'était, mais vraiment... hyper mauvais. Puis alors, le coup aussi des super-héros qui sont manipulés. Alors, pour une fois, c'est pas Wolverine. Ah, alléluia. Alléluia. Je vous le donne, c'est pas Wolverine. Voilà. Mais, putain, mais c'est... Non. Au secours. Au secours. Voilà. I did it pour moi. Tu vois, c'est nouveau, c'est...
Moi, je serais beaucoup plus nuancé. Je serais beaucoup plus nuancé. Alors, on avait lu une interview de Rick Remender cette semaine, on avait parlé dans le Weekly News, où il avait dit qu'il avait pu justement peaufiner ses dialogues, réécrire, etc. Il aurait peut-être pas dû. Parce que finalement, il a rendu la narration très lourde, je trouve. J'ai eu du mal à le terminer aussi, j'en suis sorti un petit peu pendant un moment. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures à faire, mais finalement de la lecture qui n'est pas... elle te fait sortir du truc, finalement, c'est peut-être too much. Alors, il y en a certains qui écrivent pas du tout, qui te font des comics avec trois bulles. Alors lui, c'est tout l'inverse.
Il y avait de quoi lire.
Bah, c'est assez étonnant, parce qu'il a complètement changé son style par rapport aux deux premiers épisodes, j'ai trouvé. Je l'ai pas reconnu, comme je te dis. Et vraiment, oui, s'il a changé sa narration.
À mon avis, c'est juste pour ce numéro-là.
Il avait dit,
hein.
Pour ce numéro-là, vu qu'il y a eu du retard, il a pu réécrire, essayer de peaufiner les dialogues, etc. Et je pense qu'il a justement peut-être trop retouché son
c'est
script.
C'est l'erreur. Là, c'est l'erreur, parce que j'aurais été effectivement Axel Alonso, j'aurais lu ça, j'aurais dit non. On peut pas sortir ça. C'est pas
oui,
possible.
Mais de toute façon, il fallait le sortir un jour ou l'autre. Hein, donc. Mais
il y avait quelques bonnes répliques, moi, j'ai trouvé quand même.
Moi, oui. J'aurais eu honte, tu vois, de sortir un travail pareil. Honnêtement, avec le retard en plus, j'aurais vraiment eu la honte. Donc, enfin, voilà.
Il y a des trucs, moi, que j'aime beaucoup, qui sont très cheesy, c'est sûr. Mais justement, c'était fait exactement pour ce côté cheesy. Le côté Red Skull, à chaque fois, avec ces espèces de.
Oui,
de petits symboles comme quoi il manipule la pensée façon Charles Xavier des années 60, sans revenir à ce côté un peu presque
c'est le Red Skull
en fait.
Des années 40 hein, donc
ouais mais bon là on est limite aux années 60, tu sais, la façon dont
oui,
Xavier utilise son
bien
pouvoir
sûr.
C'est un côté presque pop art qui est vraiment appuyé, toujours des poses hyper iconiques pour le Red Skull,
mais c'est pour ça que Cassaday fait de belles couvertures mais donc c'est très bien s'il continue à faire les couvertures, mais les intérieurs sont pas terribles.
Non, puis en plus, vous avez vu quand même, les Avengers qui, je sais pas, ils étaient dans le quartier, ils achetaient du pain.
Bah, après une telle destruction, je pense que ça pouvait pas passer inaperçu.
Oui.
En même temps.
Bon. Ouais, c'est, enfin, voilà.
On est dans New York. New York n'est pas non plus des masses étendues, et avec un Queen Jet, ça va vite.
Ouais.
Ou un Queen Bird, comme Remender aime à l'appeler, puisque la moitié du Queen Jet et la moitié du Blackbird. C'est pas moi, c'est lui. Hein.
D'accord.
Non, moi, franchement, voilà, c'est du comic blockbuster de super-héros. C'est ce que j'attendais de Uncanny Avengers. C'est ce que j'ai. On a un Red Skull qui est quand même ultra puissant. Même si la façon dont il utilise son pouvoir me fait plus penser à un hitmonger, je veux dire, que à Charles Xavier.
Mais justement, moi, le côté, j'ai tellement trouvé ça cheap que j'ai pas vu du tout le côté blockbuster. Moi, j'ai vu le côté, à la rigueur, série des années 60, quoi, type
c'est
Batman.
Un blockbuster old school.
Moi, écoutez, ça m'a plu, franchement. Alors oui,
non,
déçu quand même d'attendre et d'avoir ça, d'avoir un comic qui m'a fait sortir du truc parce que c'était trop verbeux pour finalement pas dire grand-chose. Mais bon, dans l'ensemble, moi, un bon petit check-it. Ce qui me dérange, par contre, c'est bon, même si d'un côté, c'est pas plus mal puisqu'au moins on aura le comic à l'heure, mais le fait que l'arc se termine en 4, que le prochain épisode soit la fin et ne sera pas dessiné par John Cassaday mais par un Kubert, je ne sais plus lequel.
Ah, tu crois ? Je crois que le 4 c'était aussi Cassaday.
Ah mais... non, le 4 c'est un Kubert justement qui le
D'accord,
fait.
D'accord.
Okay. C'est un petit peu ce qui me dérange, c'est qu'on aura une perte d'unité graphique. Alors, est-ce pour un mieux ou pour un moins bien, je ne sais pas, mais en tout cas ça me dérange que dans un seul arc il y ait déjà deux dessinateurs, surtout un arc en 4.
Oui, ça c'est embêtant.
Mais bon, fallait que le comic sorte à l'heure. Donc ce sera un check-it quoi. On va passer, alors on va toujours essayer d'éviter de confondre les séries, cette fois-ci on passe au Avengers numéro 3 de Jonathan Hickman avec Jérôme Peña au dessin. On a la fin, la résolution de l'arc avec ces espèces de personnages qui sont arrivés sur Mars et ont décidé de changer et de sauver la Terre finalement en créant une nouvelle espèce. Là encore pareil, c'est du gros blockbuster, ça rentre dedans. Alors les dessins de Jérôme Peña sont magnifiques.
Ah, c'est sublime.
La seule chose que je n'aime pas, c'est le costume de Captain America. Franchement, je peux pas. Je peux pas. Ce casque, je le trouve, mais ignoble. Voilà, ça ne passe pas. Ça fait jouer. Franchement. Ça fait gros jouer, quoi. Mais bon, c'est le casque qui est comme ça. C'est le nouveau design. Hein. On a voulu le rapprocher de ce qu'on avait vu dans les films. Ce qui est toujours, je dis bien, toujours, à aucune exception près, une erreur. Jamais faire un costume de film dans un comic. Apparemment, non, c'est la seule règle qu'il ne respecte jamais, et à chaque fois, il se plante.
Il me choque moins son costume que dans Uncanny Avenger, justement, où là, avec ses écailles qui sont moches.
Oui, mais de toute façon, l'un comme l'autre, je veux dire, on n'avait pas à changer le costume de Captain America pour le rapprocher du film, c'est une erreur.
Ouais.
Au niveau de l'histoire, donc, comme je disais, on a cette résolution avec ces nouveaux Avengers que Captain America a été chercher, qui vont justement se bastonner avec ces trois personnages. On a Ex Nihilo, on a... Aleph, je crois, et puis le dernier, je me rappelle plus, la meuf. Bon, c'est pas grave.
Je sais plus comment elle s'appelle, elle a un nom de...
Ouais, bon, bref, c'est, non, enfin, c'est bref. Pas grave. C'est pas grave.
Abyss.
Ouais,
ah
d'accord.
Bah, rien à voir. C'est déjà bien.
Franchement, un bon petit épisode qui clôture cet arc d'ouverture. Voilà, j'ai quand même hâte de passer à l'arc suivant, parce que je dois avouer que la fin est peut-être un petit peu rapide, du coup on a une espèce de menace assez importante, et finalement, ce qui a joué, c'est pas le pouvoir des Avengers, mais presque le nombre, même si, bon, on a quand même un Deus Ex Machina, mais je vous laisserai en parler de ça. Du coup, bah, qui a envie de prendre la suite, dire ce qu'il en a un petit peu pensé ?
Je veux bien.
Vas-y, Benny.
Vas-y.
Au fait, j'ai plutôt bien aimé cet épisode. Bon, là, j'ai bien ressenti le côté blockbuster, surtout grâce aux dessins qui sont sublimes, on est tous d'accord. Maintenant, c'est vrai que la résolution, c'est vite expédié, c'est on range les jouets, et voilà. Au fait, là, on sent bien qu'il a fait cet arc introductif en 3, simplement pour constituer cette nouvelle équipe, pour avoir une raison d'avoir une nouvelle équipe. C'était une histoire vraiment à la All New X-Men, à l'époque Claremont, hein, avec Len Wein, etc. Mm-hmm.
Avec 74, ouais, 74-75.
Vivante, voilà, c'est ça. Krakoa. Avec Krakoa, voilà, c'était le même principe. Les origines de ce personnage étaient pas si mal, bon, voilà, ça ressemblait un petit peu à ce que fait DC avec les Green Lantern, mais en tout cas, bon, voilà, il y a ce qui me dérangeait, c'est un petit peu le côté vite expédié de la fin, le côté Deus Ex Machina, comme par hasard, il y a quelqu'un dans l'équipe qui peut les aider, voilà, qui est là. Dans cette formation, il fallait que cette personne soit là à ce moment-là pour que ça marche comme ça.
Ouais. Je suis d'accord avec toi parce que en plus c'est un personnage. Enfin moi en tant que nouveau lecteur 616, je ne le connaissais même pas. Donc j'ai trouvé ça un peu abusé parce que c'est un personnage qui a l'air d'avoir énormément de pouvoir et d'être craint par beaucoup de personnages.
Ah ben on est dans Jonathan Hickman. Hein. Il va chercher quand même dans la continuité certains pans un petit peu
voilà,
obscurs.
Donc,
quoi.
Donc après, ça m'a donné envie d'aller chercher un peu qui est ce personnage et donc bon, c'est pas inintéressant. Après,
je cherche pas trop, tu risquerais d'être déçu quand même.
Ouais, mais bon, après peut-être qu'il va le réintroduire et essayer d'expliquer un peu ça plus tard. Bon, après il y a des petites choses qui sont sympas aussi au niveau du scénario par rapport à des choses encore où Hickman s'amuse avec des codes, avec un personnage qui est créé, Adam, qui parle avec un langage particulier. Donc on peut s'amuser à déchiffrer ce qu'il dit en fait.
Et, oh bah, bonne chance. Hein.
Bah oui, mais il y a des codes en fait pour pouvoir le déchiffrer. Et en fait, ça annonce un futur arc aussi. Donc moi j'ai été, c'est la dernière case que j'ai trouvé ouais. intéressante.
Il y a des pistes hein, pour la suite, c'est clair. Donc ça, on peut pas le nier. C'est vrai que toutes ces pistes-là peuvent être intéressantes. Maintenant, bon, on a envie de passer à l'arc d'après, quoi.
Ouais, mais en fait, je suis d'accord avec toi. Ouais. Vivement la suite pour voir où ça va aller et qu'il explique un peu qui sont tous ces personnages, les autres.
Moi, il y a un petit truc que j'ai pas très bien compris. C'est justement cette espèce de robot là, Aleph. J'ai ouais. pas capté le truc changer de taille comme ça.
Oui, ouais, c'est bizarre. Après, c'est peut-être une technologie extraterrestre qui lui permet de modifier sa composition.
En tout cas, il était vraiment bien dessiné. D'un seul coup, il est, enfin, je veux dire, voilà, il a taille humaine à peu près, et d'un seul coup, il fait 5 mètres de haut. C'est un petit peu perturbant, quoi. Peut-être que là, ça aurait mérité une petite case d'explication, ou je sais pas, une petite bulle, un petit truc comme ça. Il y a des fois trop en dire, ça nuit à la lecture, mais ne pas assez en dire, ça peut aussi vraiment nuire, quoi. Je veux bien les ellipses, on peut arriver à comprendre quand même, mais c'est un petit peu dérangeant, quoi. D'un seul coup, on se dit, attends, c'est le dessinateur qui s'est chié dessus ou...
Moi, il y a juste un truc, enfin deux petites choses. C'est la première, c'est encore une fois arc introductif et comme par hasard, il y a des membres de l'équipe qui sont manipulés par l'ennemi. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ok, mais le truc qui m'a saoulé, c'est comme d'habitude avec Hickman, c'est le côté pompeux des dialogues et vas-y que je me la pète, quoi. Limite branlette intellectuelle. La dernière réplique du bouquin, honnêtement, j'ai limite rigolé. Je me suis dit, oh là là. Qu'est-ce qu'il est pompeux, qu'est-ce qu'il est dans le lyrisme.
C'est pas pompeux.
Non, c'est pas. Ouais, mais enfin, c'est le style Hickman, ça a toujours été. Je vois pas pourquoi il changerait son style maintenant. Je veux dire, si voilà. On l'a mis sur Avengers, c'était pour avoir ça, quoi. Ce serait dommage qu'il change son style.
C'est too much. Au bout d'un moment, ça me lasse, quoi. C'est toujours avec des grandes phrases qui veulent tout et rien dire.
Bah, c'est surtout, je pense, comme l'a dit Kinghead tout à l'heure, hein, pour introduire un nouvel arc. Hein,
ah oui, bah bien sûr, mais bon.
Ouais. Bon, après, on verra quel sera le lien entre Avengers et New Avengers, justement. Est-ce que faut prendre cette phrase-là comme un lien avec New Avengers? Est-ce que ce sera un lien avec Avengers, tout court? Bon, on verra. On verra. Mais moi, en tout cas, j'ai envie d'aller voir la suite, j'ai envie d'aller voir un nouvel arc, voir sur quoi ça va partir, voir quels seront ses prochains Avengers, puisqu'il en manque encore 6.
Oui, et voir comment se tient la série sans Opeña, parce que... C'est aussi un des gros points forts de la série, c'était le dessinateur jusqu'à présent.
Ah, parce qu'il s'en va définitivement ou il tourne?
Non,
ils vont tourner, hein, comme tous. Hein.
Ah oui, bah tant mieux, parce que...
On peut pas faire du double shipping en laissant le même artiste, malheureusement. Je crois que le seul qui pourrait tenir les délais, ce serait Marc Begley, et encore. Quoique maintenant, c'est 20 pages, ça doit être jouable pour lui. Ce qui est bien dommage. En tout cas, un check-it plus pour moi. Peut-être un peu trop rapide et un peu trop facile comme conclusion.
Ah bah alors, tu me convaincs, j'hésitais entre petit bail et check it plus, je vais mettre check it plus. Bon, moi c'est surtout les dessins qui m'ont vachement porté, mais c'est vrai que je suis assez déçu de la résolution un peu facile de cet épisode.
Faut penser quand même que check it plus reste une bonne note. Hein,
Oui, bah check it voilà. plus. Voilà.
On va passer, alors toujours dans les titres qui risquent de nous faire nous tromper, la nouvelle série Young Avengers. Bunny, tu nous en parles.
Ouais, Young Avengers, donc on retrouve Karen Gillan et Jim, je crois que c'est Jim McKelvey.
Jamie
McKelvey, voilà. Donc au dessin.
Accompagné de Mike Norton.
Voilà. À l'ancrage et New Avengers change un petit peu de registre parce que
non Young passe... Young pas New
j'ai dit New en pensant à Young, c'est extraordinaire.
Franchement c'est véritablement le problème, c'est que là Uncanny X-Force, Uncanny Avengers, Avengers, Young Avengers, et on ne parle pas des séries qui ne sortent pas cette semaine, franchement c'est le bordel.
Non, puis Uncanny X-Force, enfin tous les trucs avec les mêmes mots en fait dans le titre,
sachant qu'on aura aussi Uncanny X-Men, qu'on a les New Avengers, quoi. Et franchement, ça devient difficile, quoi. Même pour nous, qui sommes vraiment déshabitués, on arrive encore à se planter dans les titres. Imaginez les gens qui ne suivent pas.
Bah, j'attends la sortie d'All New Avengers.
All New Uncanny Avengers.
All New Uncanny Avengers, bien sûr. Donc, revenons à nos moutons. Précédent volume, Alan Enberg, voilà. Là, on change quand même de ton. On retrouve certains personnages qui, comme par exemple Hulkling, alors j'arrive jamais à le dire, Hulkling, c'est l'espèce de pseudo-scroll, mi-humain, mi-scroll, mi-je ne sais quoi, qui est en couple avec, avec Wiccan. Mm-hmm. Donc on retrouve par exemple ces deux personnages-là, mais sinon, Loki est de la partie, ainsi que, j'ai oublié son nom,
Kate Bishop.
Mais je pensais pas au fait à Kate Bishop, je pensais à
Miss America.
À Miss America, voilà, qu'il allait recruter dans une autre dimension, dans le Point One, souvenez-vous. Et puis, au fait, on commence justement avec une scène assez sympathique avec Kate Bishop, qui a passé du bon temps avec Novar, donc le Marvel Boy Protector. Une scène assez marrante, bien foutue graphiquement. J'ai vraiment trouvé ça bon et direct, je suis rentré dans l'histoire. Le seul problème, c'est qu'après, c'est un petit peu décousu, cette narration. On retrouve un petit peu tous les personnages qui vont composer l'équipe. On sait, enfin, un petit peu chacun de leur côté. Il y a une espèce d'intrigue finale, alors, qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Mais vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et, c'est intriguant, j'ai envie d'aller voir la suite. Parce qu'on s'arrête quand même sur un truc assez choquant. On se dit, oula, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est assez brouillon. Et finalement, c'est pas très drôle. J'ai trouvé Kieran Gillen beaucoup plus inspiré dans le Point One, avec son espèce de checklist, avec Loki, etc. Je m'attendais à un truc super fun, super décomplexé, et finalement, c'est assez sérieux et assez sombre.
Le problème, c'est peut-être simplement que l'équipe n'est pas formée, pour le moment.
Oui, en plus. Je veux dire, effectivement, tout reste à faire, entre guillemets. Donc, il y a une menace qui se présente, qui pointe le bout de son nez, et plus que ça, même. Sans mauvais jeu de mots, mais j'attends de voir la suite. Ça m'a quand même bien accroché, donc pour moi c'est un bail. Alors encore une fois, c'est comme Uncanny X-Force, c'est un petit bail, c'est pas le bail ultime, c'est sympa.
Bah pareil pour moi. Moi franchement, j'ai quand même envie d'aller voir. Il y a quand même du petit passage assez drôle, quoi, quand tu vois Hulkling par exemple qui va jouer les justiciers dans la rue. Alors, d'un seul coup, tu vois un personnage, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et en plus, il parle bizarrement. Surtout un personnage qui fait débat en ce moment. Voilà, je pense que tout le monde peut arriver à comprendre.
Tu donnes beaucoup d'indices.
Même sans le dire. Et, finalement, se rendre compte que c'est Hulkling, c'est assez drôle. Mais, voilà, enfin, il y a des petits passages sympathiques. Et effectivement, comme tu l'as dit, après, il y a une longue phase de dialogue, quoi.
Oui, voilà, j'ai trouvé la scène, par exemple, entre Wiccan et Hulkling, très longue. Franchement, trop longue, mais peut-être 2-3 pages de trop, même, parce que...
As-tu lu la postface écrite par Kieran Gillen, justement?
Non. Bah,
il explique un petit peu le but de sa série. Finalement, la différence avec la précédente série Young Avengers par Alan Einberg, c'est que la précédente série s'intéressait à des personnages qui ont 16 ans, à peu près. Donc, qui voient encore leurs parents comme des figures héroïques ou qui essayent de leur ressembler. On n'est pas encore adulte, mais on attend de le devenir, on est pressé, etc. Et là, il va s'intéresser à des personnages qui ont 18 ans, qui sont maintenant réellement des adultes et qui commencent peu à peu à se démarquer de leurs parents en trouvant d'autres modèles, d'autres idoles.
J'ai envie de dire force et contraint, hein.
Ben, il nous montre tout de suite que d'ailleurs on est dans un autre registre. La première scène d'ouverture avec Kate Bishop qui vient de passer une nuit avec Novar, justement, nous montre qu'on est passé dans l'âge adulte.
Oui, non, bien sûr, oui, non, mais ça c'est plutôt bien fait. Bon.
Donc, franchement, c'est pareil. J'étais intéressé. Effectivement, j'en attendais peut-être un petit peu plus de ce premier numéro. Bon, reste que c'est quand même une bonne lecture, c'est assez frais, ça diffère assez des autres séries qu'on nous propose actuellement, en tout cas sur ce premier numéro, pour au moins essayer d'aller y jeter un œil si on est un petit peu lassé de tout ce que l'on voit actuellement. Bon voilà, un bon petit bail, quoi. Oula, ça, j'ai tué tout le monde.
Non, mais moi j'allais dire simplement, effectivement, que le Point One, ce qu'on voyait de Young Avengers dans le Point One, était peut-être un peu plus catchy, un peu plus imaginatif.
Je suis d'accord.
Là, il manquait juste un petit peu de fun, un petit peu d'idées, voilà. Mais c'est plutôt pas mal, et c'est beaucoup mieux que ce que fait, je trouve, Kieran Gillen sur Iron Man, par exemple.
Ouais. On va passer à une autre série, cette fois-ci vraiment, vraiment fun. C'est la sortie du troisième épisode de FF, qui est le premier véritable épisode de FF, peut-on dire, puisque les deux premiers nous avaient été déjà tellement teasés, il se passait franchement pas grand-chose de neuf. Ouais. C'est toujours écrit par Matt Fraction, avec des dessins de Michael Allred, colorisés par Laura Allred. Et on avait, à la fin de ce deuxième épisode, le retour d'un Johnny Storm. Bon, je vais rappeler très très vite le concept. Les quatre fantastiques sont partis dans une dimension alternative pour essayer de trouver une solution à la dégénérescence des molécules instables qui composaient Reed Richards et qui leur donnaient leur pouvoir. Et ils avaient engagé quatre personnes pour devenir des FF de substitution. Le temps qu'ils partent, ils devaient partir l'équivalent de 4 minutes. Cependant, bien sûr, au bout de ces 4 minutes, ils ne reviennent pas. Et donc, les personnes qui avaient été choisies pour les remplacer, à savoir donc Scott Lang, l'homme fourmi, Miss Hulk, Medusa et la copine de Johnny Storm, voilà, qui s'appelle Darla, je crois, ou Darlene.
Ouais. Darla Deering.
Darla Diladada.
qui vont donc devoir être les quatre fantastiques sur Terre, même s'ils n'en ont pas forcément envie. Et à la fin de ce deuxième épisode, on avait un Johnny Storm complètement explosé qui revenait. C'est ce que j'attendais que Hickman nous fasse quand on avait eu le grand retour de Johnny Storm, un mec avec peut-être un bras en moins, un œil en moins, un truc comme ça. Bah alors là, il a tout le côté gauche, il en a plus en fait.
c'est câble.
C'est câble.
Il
voilà.
s'est fait défoncer, ouais.
c'est câble. Et justement, il va expliquer ce qui s'est passé. Et ils sont tombés sur une entité et franchement, là, ça a été le moment où j'ai explosé de rire. Ils sont tombés sur une entité qui a fusionné, enfin sur trois entités en fait qui ont fusionné en une. Nous avons donc Doom, The Annihilating Conqueror. Donc une fusion entre Doom, Annihilus et Kang, le Conqueror.
Ouais.
Et rien que ça, rien que ça, ça montre à quel point ce comic est complètement fou.
Ah, c'est barré, ouais.
Et enfin, il s'en passe de partout, je sais même pas... Enfin, on pourrait en parler pendant des heures tellement je crois qu'il se passe de trucs dans cet épisode. Matt Fraction, qui avait l'habitude, notamment sur Iron Man, de nous délayer ses histoires en 8 ou en 12, alors que 5 ou 6 épisodes auraient largement suffi, là il en met... Enfin, s'il avait gardé son style Iron Man, là il y en avait pour 8 épisodes facile.
Oui, mais là il est clairement dans le style qu'il a pris sur Hawkeye.
Hawkeye.
Hawkeye, d'ailleurs, je dirais même, il s'en passe... Là, si tu trouves qu'il s'en passe beaucoup, dans Hawkeye, il s'en passe 10 fois plus encore, quoi. C'est juste fou. Mais je trouve qu'il est bien meilleur dans ce style-là, effectivement, en plus décalé, que dans le mainstream, finalement.
Ah non, mais là, c'est complètement déjanté. On a une attaque du Yancy Street Gang.
Ouais.
Alors, j'ai pas compris, il y a l'un des membres, on a l'impression sur l'image, alors c'est peut-être un... Parce que le mec court, on a l'impression qu'il vole.
Ouais, je pense que c'est parce qu'il court.
C'est le dessin.
Ah oui, mais alors là, pour moi, là, il est.
On a surtout Darla avec juste une serviette sur elle, toute nue, qui se bat contre le Yancy Street Gang. C'est surtout ça qui est bien, quoi.
Ouais.
On a une composition de page où on a Scott qui descend l'escalier. Enfin, c'est.
Ah, c'est super beau.
C'est super. Super. Michael Red est vraiment là, vraiment à sa place.
Exactement, exactement. Michael Red m'avait pas emballé, je dois le dire, sur X-Statics, X-Force à l'époque. Et là, je le trouve vraiment très très bon sur ce titre. C'est d'ailleurs l'une des grosses forces de ce titre. Et graphiquement, là, ça me faisait même penser sur certaines pages à du Marcos Martin.
Bah, c'est tout à fait raccord avec le style que Matt Fraction a choisi. Hein. Ils ont très bien fait de prendre Michael Red pour ces dessins-là. Et une petite chose aussi amusante, on avait souligné dans le Fantastic Four numéro 3, il y a deux semaines, que comment pouvait-il fêter... le nouvel an, s'ils étaient partis, enfin, c'était un petit peu bizarre. Là, finalement, on a fait le raccord, puisque là aussi, c'est le nouvel an dans ce numéro-là. Mmh. J'ai trouvé que c'était bien joué, quand même.
C'est bien joué, mais c'est pas super logique. Mais, comme on avait dit l'autre fois.
Oui,
mais,
c'est pas super logique. Mais disons qu'en termes
de temps,
raccord. Mais voilà, ils en parlent, et au moins, c'est à peu près raccord entre les deux. J'ai trouvé que, bon, voilà, c'était plutôt intelligent d'avoir essayé de raccorder un petit peu les deux. Ouais. Mais justement, Kinghead, Bunny, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce numéro, vous aussi?
Kigan, tu veux commencer?
Que du bien. Hein. Enfin, moi, pour moi, chaque fois qu'il y a un numéro de FF qui sort, c'est toujours un délice. Enfin, c'est super beau, c'est beaucoup d'humour, c'est des dialogues excellents en général. C'est complètement foufou. Là, cette histoire avec ce Johnny Storm vieux, parce que il a l'air d'être très âgé, d'être complètement abîmé. Au départ, il se demande même est-ce que c'est vraiment Johnny Storm. Donc, ils essayent de prouver que c'est bien lui. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Les trucs Enfin bon, voilà, enfin, c'est de la folie un peu partout. T'as une scène complètement folle où tu vois justement Darla qui est un peu Katy Perry, quoi, qui danse avec des. c'est n'importe quoi, quoi.
Enfin, non, mais c'est vrai, la comparaison est très bonne.
C'est exactement ça, et c'est vraiment très drôle, et c'est émouvant, c'est touchant aussi par moments. Et puis voilà, c'est ça, c'est qu'on a enfin, on sait vers quoi va se tourner cette série, on sait quel va être le but des FF et de Scott Lang. Et bah, ça a du coup des répercussions aussi par rapport à justement à ce personnage, et on comprend, il va peut-être un peu utiliser les ressources des FF pour son propre, pour lui, quoi. Et même si bon, maintenant ça commence à avoir en plus un intérêt pour peut-être l'univers. Donc voilà, j'ai trouvé ça génial. Bah, pour moi, c'est un gros bail aussi. Ça a failli être mon coup de cœur de la semaine.
Bah moi, c'est mon coup de cœur de la semaine, hein, clairement. Je pensais pas être à ce point surpris par une série, quoi, cette semaine, et là je suis vraiment resté sur le cul. Benny, toi justement, qu'en as-tu pensé de ce FF3?
Justement, on va arrêter le suspense. C'est aussi mon coup de cœur de la semaine. Chose étonnante, puisque je ne donnais pas cher.
On est d'accord. On est d'accord.
Ouais, là, franchement, ouais.
C'est impressionnant.
C'est
ça faisait longtemps que c'était pas arrivé.
Oui, non, mais chose étonnante, puisque de toute façon, moi j'avais pas été particulièrement séduit par les deux premiers numéros de FF. Je trouve que la série démarre vraiment là, comme dirait Sam. Oh, ça avait pas démarré. Bah là, ça démarre. le sujet, comme tu disais, enfin le cliff de fin, j'ai hâte de voir la suite. Et puis oui, puis le développement donc de Scott Lang. Je trouve que Scott Lang, c'est vraiment la star de la série. Et tant mieux, parce que je suis super intéressé de savoir où tout ça va mener par la suite. Et voilà, donc oui, beaucoup de fun. Je sais pas quoi rajouter.
Ouais,
j'en ai rien à foutre.
Plus,
par contre, de Fantastic Four, ça c'est vrai que il peut se passer n'importe quoi dans Fantastic Four. Je pense pas que ça va me captiver. Et par contre, je suis super fan de FF, donc je pense continuer FF évidemment. Par contre, je suis pas sûr de m'intéresser tellement à Fantastic Four.
Ah, je suis entièrement d'accord. Fantastic Four paraît vraiment petit à côté de cette série. Ça c'est clair. Mmh. On verra s'il va nous amener quelque chose, parce que pour moi, on a eu plutôt des épisodes one shot. Donc peut-être quand il va commencer à vraiment développer son histoire, mais. Bon, j'ai peu de chance, mais on
tu sais
même
ce
pas
que
parlé,
je pense. Pardon.
Oui, pas... non, vas-y, je t'en prie.
Mais ce que je pense, c'est que pour écrire FF, il était obligé, si tu veux, d'envoyer les fantastiques dans l'espace. Il pouvait pas demander à quelqu'un d'autre, écoute, est-ce que tu peux pas faire un titre pour les envoyer dans l'espace et les occuper pendant que moi je fais FF. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé à Marvel de faire les deux. Sauf qu'il y a une série qu'il adore faire et l'autre, à mon avis, qui est un petit peu le boulet, qu'il est obligé de se traîner pour faire FF. Et donc voilà, à mon avis, ça l'amuse pas tellement de faire.
Il est un peu tôt pour le dire.
Oui, il est un peu tôt encore. C'est vrai. Je suis un petit peu d'accord avec Kinghead.
Ouais,
là,
mais je sais pas, parce que à moins qu'il se passe un truc énorme dans l'espace, ça. Enfin, honnêtement, ça m'étonnerait, puisqu'on connaît
En tout cas, on nous a prévu quelque chose d'énorme, puisqu'on a des vues de ce qui risque d'arriver.
Ouais, mais ça m'étonnerait que justement on voit ça dans l'espace. À mon avis, on va partir sur totalement autre chose, sur d'autres aventures. Et le temps qu'on en arrive à là dans l'espace, et bah au fait, ce sera réglé entre guillemets sur Terre. Donc je sais pas. En tout cas pour le moment, voilà, ça m'a pas séduit. On verra par la suite.
Ouais, on n'a même pas parlé, comme je disais tout à l'heure, du plot qui tourne autour de l'homme taupe.
Ah oui, c'est vrai.
Qui justement, moi aussi, m'a intrigué un petit peu. Il a vraiment mis beaucoup d'idées dans ce premier vrai numéro de FF. Et je pense qu'il en a assez pour tenir 2-3 ans là, facile.
Ah bah, oui, peut-être enfin, pas 2-3 ans, mais carrément moins pour cette année, quoi.
En tout cas, voilà, ça, même la petite image que l'on voit qui nous présente le prochain numéro, le 4, a l'air assez marrante. Donc, moi, franchement, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir cette série complètement déjantée. Vraiment, vraiment loin de ce que l'on a chez Marvel en ce moment, qui se prend peut-être un peu trop au sérieux. Bon,
puis, j'espère que Michael Allred va rester longtemps, hein.
Oui,
parce que
oui.
Ça donne vraiment l'identité à ce titre aussi.
On va continuer avec un truc bien déjanté aussi. Benny, tu vas nous en parler. C'est la sortie du premier numéro de Deadpool Killustrated.
Voilà, par Cullen Bunn et alors là, par contre,
Matteo Loli au dessin.
Matteo Loli, oui, avec
Sean Parsons à l'ancrage.
Merci. J'aime bien parce que merci de me compléter. Au fait, oui, il y a un truc assez barré. Alors Deadpool, d'habitude, j'en lis pas beaucoup, mais là, la couverture m'a interpellé et puis le thème m'a aussi bien intrigué. Grosso modo, c'est Deadpool qui va un petit peu rentrer dans les classiques de la littérature. Et pourquoi il fait ça? Parce que Deadpool, il veut un petit peu comment dire, briser l'ordre établi, renverser les conventions. Donc en fait, il se rend compte que il est un personnage de fiction.
C'est vraiment la suite de Deadpool Kills the Marvel Universe.
Oui, c'est l'impression que j'ai eue. Alors, j'étais pas sûr.
Ah non, mais c'est pas une impression, c'est la suite.
D'accord,
c'est
véritablement
la suite.
Donc, il sait qu'il est un personnage, il a conscience qu'il est un personnage de fiction, et il veut, si tu veux, prendre le pas sur la fiction, c'est-à-dire vraiment contrôler son univers, son personnage, son futur. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il a le Matt Sinker qui bosse pour lui, ainsi que toute une ribambelle de savants, et qu'ils ont toute une discussion là-dessus, et que le Matt Sinker lui dit, écoute, je pense qu'au fait, on est intégré à une continuité, et qu'il y a des gens qui décident de nos futurs, et qu'on peut pas mourir, parce que il y aura toujours des histoires sur nous, etc. Enfin, c'est complètement fou, la discussion qu'ils ont, c'est super drôle, et là, notamment, donc on le voit sur la couverture, il est, entre autres, transporté dans l'histoire de Moby Dick, et il déconne, quoi. Il tue lui-même Moby Dick, il change tout, en fait, dans les histoires, à sa manière, donc à la manière Deadpool, donc c'est toujours assez rentre-dedans, assez gore, assez déjanté. Et franchement, je me suis bien marré à la lecture de ce premier numéro, donc j'irai voir les trois autres, puisque bon, c'est une courte série en quatre. Et comme tu dis, oui, ça fait la suite à Deadpool Kills the Marvel Universe, qui était aussi assez assez drôle. Et justement, je trouvais qu'à la fin, ça tombait un petit peu à plat, la fin. Je me disais, bon, bah, ça appellerait à une suite, et malheureusement, on l'a pas. Bah, on l'a avec ça, donc ça tombe bien.
Donc, la justement, boucle est bouclée. Comme tu l'as dit, moi aussi, je l'ai lu parce que j'étais un petit peu intrigué. Je me suis dit, bon, Deadpool qui va massacrer des icônes de la littérature. Bon, essayons le premier au moins pour voir. Et bonne surprise, finalement, je me suis marré quand même dans cet épisode.
Ah, puis il y a un scénario complexe quand même. Enfin, il y a un scénario, quoi. Il y a une substance.
Et voilà, comme tu l'as dit, Deadpool s'est rendu compte qu'il était un personnage de fiction et voudrait essayer de sortir du fait d'être contrôlé par des espèces de créatures pour son juste propre plaisir de le mettre dans des situations, de devoir le faire tuer tel ou tel personnage à chaque fois. Ça a commencé à le gonfler. Et donc, avec sa bande de super-vilains qu'il a épargné tous les scientifiques les plus fous de l'univers Marvel, ils se rendent compte qu'il y a ce fameux monde, l'Ideaverse, donc le monde des idées, dans lequel tout le monde tire les idées qu'ils utilisent pour leur scénario. Donc, il va les détruire, toutes ces icônes, ce qu'on appelle les classiques aujourd'hui. Et bah, comme tu l'as dit, Moby Dick, on voit aussi passer Don Quixote. Bon, bah voilà, c'est...
Ah oui, d'ailleurs, c'est super drôle.
C'est Deadpool qui va massacrer les classiques de la littérature qui servent à donner l'inspiration à tout le monde aujourd'hui. Franchement, c'est sympa. C'est pas la série du siècle, loin de là, mais c'est une bonne détente, quoi. Et puis ça fait réviser les classiques, ce qui est jamais un mal, de toute façon.
Oui, non, puis c'est du bon Deadpool. Parce que moi, le Deadpool, justement, m'intéresse pas vraiment, il y en a eu trop. Mais là, voilà, le thème était attrayant. Donc, pour moi, c'est un petit bail.
Ah, un bail pour toi, d'accord.
Un petit bail, ouais, un petit bail. Ouais, ouais,
ouais, pour moi, c'est un check-it, ouais. Bon, c'est une mini en 4, hein, comme on a dit, ça n'engage pas grand-chose. Donc voilà. On termine le Marvel avec la sortie du 20e numéro d'Ultimates, King Ed, notre spécialiste Ultimate.
Exactement, donc c'est scénarisé par Sam Humphries, justement, et dessiné par Scott Eaton. Il y a pas mal d'encreurs, je vais pas tous les citer, il y en a 5 ou 6. C'est l'arc qui s'appelle Reconstruction, c'est la suite de la Grande Guerre qui a eu lieu aux États-Unis, qui avait abouti à ce que Captain America devienne le président des États-Unis, et qui a abouti aussi au développement de l'Hydra, qui en fait est vraiment sorti maintenant de la clandestinité, et commence à faire un petit peu des attentats partout aussi dans les États-Unis. On avait quitté le numéro précédent avec un gros suspense assez étrange puisque ils se rendaient compte en fait les Ultimates que il y avait peut-être un traître parmi eux qui donnait des informations sur l'armement du Shield à l'Hydra et sur une vidéo on voit un personnage qui ressemble trait pour trait en fait au Nick Fury de l'univers 616. Donc et c'est en fait un camouflage qu'avait déjà utilisé Nick Fury Black dans des vieux numéros d'Ultimate. Donc ils se disent c'est bizarre, pourquoi Nick Fury est maintenant passé à l'ennemi. Donc là en fait on suit dans ce numéro là ce Nick Fury qui est qui se fait pas appeler Nick Fury, il se fait appeler Scorpio. Il travaille donc avec l'Hydra, il a l'air d'être d'accord avec leurs idées mais d'être un peu moins extrême. Et dans ce numéro, on voit aussi les Ultimates qui essayent d'envoyer quelqu'un sur place pour confronter ce personnage et savoir si c'est bel et bien Nick Fury. Moi j'ai trouvé l'histoire vraiment vraiment sympa. En plus il y avait des petites choses par rapport à d'anciens numéros d'Ultimates qui reviennent sur le tapis, à savoir les Ultimates de la côte ouest qui vont être introduits je pense bientôt. Et on a aussi Sue Storm qui essaye de rassembler le gant de l'infini Ultimate. Donc plein de choses qui se passent. C'est intéressant pour les fans de l'univers Ultimate, ça remonte bien parce que le crossover était pas terrible et là c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc pour moi c'est un bail.
Très bien. On va maintenant passer à la partie indé. On commence avec le deuxième numéro de Richard Castle, Calm Before Storm. Donc deuxième épisode de la mini en 5. C'est écrit par Peter David, dessiné par Robert Atkins et Al Barrionevo. Alors, le mystère s'épaissit un petit peu. On avait eu, pour ceux qui se rappelleraient pas du premier épisode, le personnage de Derek Storm, création fictive du personnage fictif Richard Castle, toujours très compliqué à expliquer comme ça, avait reçu sur son bateau une tête coupée. Voilà, et avec un symbole gravé, on pensait que c'était une fastika. Finalement, ce n'est pas ça. C'est un symbole hindou qui représente la vie. Et le père d'Eric Storm se rend compte que c'est un message qui lui est adressé. Et on va en apprendre un petit peu plus sur l'enfance d'Eric Storm et des choses que lui a caché son père tout au long de sa vie. Et ensuite, ils vont devoir essayer de s'infiltrer un petit peu dans une ambassade russe. Franchement, c'est très fun à lire, comme d'habitude, c'est du bon petit polar. C'est sympa de voir le personnage de Derek Storm écrit par Peter David cette fois-ci, et non pas par Bendis, comme on avait pu le voir dans la première incarnation du personnage en comics. Ça change un petit peu, il y a toujours autant d'humour, c'est vraiment fun. C'est pas une grosse lecture super importante, si vous aimez le monde de la série télé Castle, vous aimerez forcément ce numéro-là et cette histoire, parce que c'est très méta, quoi. Il y a vraiment ce côté je passe dans la série, puis je passe dans la fiction de la série, mais finalement ça existe en vrai, parce qu'il y a des vrais romans. Toujours très compliqué, mais c'est toujours très fun de découvrir tout cet univers-là. Donc pour moi, c'est un bon check-it, presque un petit bail. Voilà. On va continuer cette fois-ci chez IDW avec la sortie de Star Trek Countdown to Darkness numéro 1, Kinghead.
Oui, donc un numéro qui est scénarisé par Roberto Orci et Mike Johnson, enfin surtout Mike Johnson, et dessiné par David Messina. Donc c'est une préquelle au film qui sort, je crois, en avril. Et donc c'est dans l'univers du Star Trek de J.J. Abrams. C'est un premier numéro que j'ai trouvé intéressant. D'une part d'un point de vue graphique puisque c'est vraiment très bien dessiné, David Messina est vraiment en forme et reprend bien le design et des personnages du film qui sont vraiment très facilement reconnaissables. C'est bien, le scénario est intéressant. On avait laissé l'équipage dans le film partir un peu à la découverte de ses premières missions pour la Fédération. Donc, et là, en fait, ils sont face à une planète que normalement ils sont censés juste évaluer à quel état de technologie ils sont et ne pas intervenir.
Mais Prime Directive.
Voilà, c'est ça, exactement. Et donc en fait, ça se passe pas vraiment comme ils veulent, puisque il se trouve que ils ont l'air d'être en possession d'une technologie assez avancée, alors que normalement ils étaient censés être au niveau à peu près des Romains de l'époque antique. Donc ça va pas trop. Il y a le vaisseau qui se fait défoncer, qui atterrit sur la planète, et là, gros mystère. La dernière page est très très intrigante. Donc c'est une bonne introduction à cette mini qui sera en 4 parties. Ça m'a donné envie de lire la suite. Par contre, par rapport à la bande-annonce du film, pour l'instant, je vois pas encore le lien, donc je pense que ça va être développé un petit peu plus tard.
Franchement, tu crois qu'il y en aura ? Tu crois que c'est pas juste un argument marketing ?
Alors c'est ça le problème. C'est parfois ces préquels, c'est souvent un argument marketing. Bon, j'ose espérer qu'il y aura un petit lien avec la menace qu'on a dans le film. Pour l'instant, je peux pas le dire.
Excuse-moi de te couper, mais je crois honnêtement pour moi que le lien, c'est tout simplement ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième film. Et qu'il ça n'aura pas de lien actif vraiment sur l'histoire du second. Ce serait quand même un pari risqué de dire aux gens qui vont voir le film, vous avez lu le comics, parce que sinon vous n'allez pas forcément comprendre tout ce qui se passe.
C'est vrai. Mais après, on reprend le design des acteurs et tout du film. Donc c'est plus ce côté-là, peut-être, qui. Mais bon, comme ils appellent ça quand même Countdown tout le film.
Film, ça s'appelle comme ça.
Countdown tout le film, exactement. Mais c'est pas mal. Original. En tout cas, c'est un petit check-it. J'irai voir le suivant. Avec plaisir.
D'accord, bah tu me diras si c'est bien, parce que moi, franchement, ça m'intéresse pas des masses perso, mais bon.
Ah, mais ouais. Tu critiques pas Star Trek comme ça.
Justement, moi je peux. Je peux. Bref, on va continuer avec une autre sortie. Cette fois-ci, c'est chez Dark Horse. Et c'est le premier numéro de The Answer.
Donc oui, bah, je vais en parler aussi. C'est scénarisé par Denis Hopless et Mike Norton. Avec des dessins de Mike Norton qui est connu pour du webcomic en fait. Il a fait un webcomic qui est très sympa qui s'appelle Battle Pug.
Et Mike Norton est très actif en ce moment puisqu'on l'a vu, il était aussi au crédit de Young Avengers. Ouais. Mais il dessine aussi Revival avec Tim Seeley chez Image. Ce monsieur n'arrête pas en ce moment, quoi.
Ouais. Et puis il a un bon petit coup de crayon, moi je trouve. J'aime bien son style. Bon alors l'histoire c'est. On suit une bibliothécaire, enfin une fille qui travaille dans une, je sais plus si c'est une librairie ou si c'est une bibliothèque.
Bon, c'est une bibliothèque.
C'est une bibliothèque. Une fille un petit peu qui vit dans son monde avec les livres. Elle a l'air d'être pas mal calée. Elle aime bien tout ce qui est énigme. Genre elle a tout bon au Jeopardy tout le temps.
C'est une geek, hein, tout simplement.
Ouais, voilà. Mais et donc en fait ce personnage là, c'est son anniversaire. Elle reçoit un cadeau de sa maman. A priori c'est un casse-tête qui est très très difficile à résoudre. Elle le résout en 2 secondes. Donc, et en fait, à l'intérieur de ce casse-tête, il y a un message secret qui lui l'incite à aller voir sur un site internet certaines choses. Et là, en fait, elle se retrouve prise dans une sorte de piège qui semble la mettre en danger, en fait. Et donc, dans cet univers-là, il y a un autre super-héros, un super-héros qui s'appelle The Answer, un super-héros très bizarre avec un costume moulant et un point d'exclamation sur la tête, qui arrive chez elle et décide de la protéger parce qu'il dit qu'elle va être en danger. Donc, c'est très bizarre. L'esprit est plutôt sympathique. Le personnage du super-héros a l'air d'être... assez étrange, c'est pas vraiment le super-héros boy scout, hein, on va dire.
Il rentre dedans.
Ah oui, il rentre dedans carrément.
Il y a un clin d'œil à Robocop, moi, qui m'a fait extrêmement rire.
Oui, ça c'était pas mal du tout. Et donc voilà, c'est très rapide, enfin c'est très dynamique, je trouve, ce premier numéro. Pareil, assez étonnant.
Plein de mystères surtout, quoi. Il y a vraiment plein de mystères. On voit qu'il y a quelqu'un qui surveille les agissements de Devine, justement, cette bibliothécaire, mais qui en même temps a l'air d'être lié avec le personnage de The Answer. Et puis, The Answer, justement. Bah, ce qui lui arrive à la fin, c'est assez incompréhensible.
Oui, exactement. Je sais pas si c'est une ellipse qui sera expliquée ou si. Mais ouais, non, c'était étrange. Bonne petite surprise indé. C'est une mini-série, je crois, c'est en 4 ou 6, je sais plus.
4, je crois.
4, voilà. Donc, franchement, une bonne petite surprise.
En tout cas, voilà ce que c'est. Hein, les cadeaux de la famille là, pour les anniversaires, c'est pas toujours génial. Hein.
Ouais. Bah, surtout elle explique que pour une fois sa mère lui a offert quelque chose qui lui plaît, un vrai
qui
casse-tête
lui plaît,
parce que
ouais.
Sa mère lui dit toujours ouais t'aimes tellement les livres qu'on sait jamais quoi t'offrir et à chaque fois elle lui offre un truc pourri quoi pour qu'elle sorte
genre un taser.
Ouais,
mais
un taser.
Ça peut servir.
C'est pour pas me retrouver dans des situations pareilles que moi je ne fais plus de cadeaux ni à ma famille ni à mes amis ni à personne et puis
oui, on fait.
En tout cas, ouais, bonne petite pioche. Moi, c'est un bon petit bail. J'ai bien aimé ce petit truc. C'est un petit peu frais. Voilà, on a tout le code du super-héros, mais en même temps, on a une petite ambiance un petit peu pulpy légèrement, entre le polar et le pulp, disons. Ouais, voilà, c'est efficace niveau dessin. C'est très classique, mais justement, c'est par ce classicisme que ça rend la chose efficace. Bon, franchement, une bonne surprise, quoi.
Ouais, tout à fait.
Un petit bail, quoi. On va terminer maintenant la partie indé avec l'avant-dernier numéro de Hellblazer, le numéro 299. Benny.
Ouais, Peter Milligan au scénario, Giuseppe Camuncoli au dessin et Stefano Landini est à l'ancrage. Alors on retrouve bien sûr cette équipe qui a marqué Hellblazer depuis de nombreux mois, voire années maintenant. Et c'est bientôt la fin, donc à la fin du dernier numéro du précédent, John Constantine répondait à quelqu'un qui sonnait à sa porte et qui lui tirait un joli coup de fusil en plein bide. Donc il meurt. Il meurt dès les premières pages de l'épisode. On assiste aux conséquences de sa disparition, notamment avec l'apparition d'un démon assez dégoûtant, en fait, constitué de plusieurs nanas, mais c'est un démon donc qui a 6 seins, tout flasque, c'est vraiment hideux graphiquement.
Ça en fait des seins à croquer, hein, Benny.
Non, mais là c'est non. Non, c'est pas trop ma came là. C'est des saints qui ont 80, 90 ans peut-être, vu la tête qu'ils ont. Enfin
Ça a l'air
voilà.
bien moche.
Tu as le droit d'être gérontophile, hein. Après, ça ne regarde que toi.
Non, ce n'est pas trop mon truc. Alors, d'ailleurs, on part aussi sur un petit peu un truc nécrophile. Enfin bon, il y a, voilà, je ne vais pas en dire plus, mais toujours est-il que, bah voilà, c'est le deuil au fait des proches de John Constantine. Et surtout de la femme qui partageait sa vie, j'ai oublié son nom, donc c'est pour ça que je ne la cite pas, mais enfin bref, voilà. Et c'est très poignant, c'est assez mélancolique, on sent que c'est la fin de la série, donc voilà, donc c'est on dit au revoir à John Constantine en même temps que les personnages de la série, et d'un seul coup, il se passe un truc à la fin de cet épisode, que je vais pas révéler évidemment. Et donc, bah
De
une
toute façon,
surprise, quoi.
ça peut pas être fini. Il y a un numéro 300.
Ouais, mais bon, voilà. Donc, que va-t-il advenir de ce numéro 300? Comment vont-ils clôturer tout ça, puisque John Constantine s'arrête véritablement dans l'univers Vertigo, rappelons-le, pour intégrer totalement l'univers des New 52. Donc, ce sera un John Constantine assez différent, plus jeune, plus pimpant.
Bah, celui que l'on voit dans Justice League Dark, hein,
C'est
de toute
ça.
façon. Et la grande question reste, pourront-ils se permettre ce qu'ils se sont permis avec Vertigo? La réponse est d'emblée non. Clairement, jamais tu ne pourras voir quelque chose bah, de ce que tu nous as décrit, un espèce de truc dégueulasse avec des seins qui pendent de partout.
On a plus ou moins vu ça dans Animal Man.
Ouais, mais il n'y avait pas de
Mais
tétons, hein. Tu
ouais,
sais,
c'est ce que
ça,
j'allais
non, mais
dire.
honnêtement, c'est quand même quelque chose qui, aux États-Unis, est très, 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 très
Ouais.
contrôlé.
Ouais.
Le téton, il faut pas le
Mais
montrer.
enfin,
Tu peux montrer du sein, mais tu montres pas de téton.
néanmoins, on pourra quand même faire de bonnes histoires sans forcément montrer des tétons, donc bon, surtout
Oui,
des
non, mais
tétons
oui, mais
périmés.
c'est un exemple, hein. J'ai pris cet
Oui.
exemple-là, mais il y en a plein, plein d'autres tout au long de
C'est vrai.
Hellblazer, de choses
C'est vrai.
qui ne seraient jamais passées chez DC.
C'est vrai, c'est vrai. C'est
Et
vrai.
va-t-on pas perdre justement
Bah si, certainement, sans doute, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes, et ce qui me pose problème, puisque j'avais le choix entre deux versions, et là, bah, il n'y en aura plus qu'une.
Je nie pas la qualité des scénarios de Ray Fawkes et Jeff Lemire. Je pense qu'ils feront quelque chose de très bien, mais va-t-on pas perdre justement de ce qui faisait l'essence même de Hellblazer, c'est-à-dire quelque chose bah, relativement adulte pour un public averti, graphique et mature,
On
quoi.
va surtout perdre un tandem de Giuseppe Camuncoli et puis de Peter Milligan qui avaient vraiment imposé
Ben,
leur
je crois
patte
qu'ils sont là
sur
depuis
l'univers.
le numéro 240 ou 250, hein, je sais plus, enfin
Oui,
ça fait un paquet de temps, hein.
ils sont là depuis très très longtemps et ça fait plus de 50 numéros peut-être, en tout cas une bonne cinquantaine.
Donc un bail ce
Oui,
Hellblazer.
bah oui, toujours un bail, bah oui, bah
Et
restons au moins jusqu'à la fin.
petite question subsidiaire, est-ce que quelqu'un qui ne connaîtrait pas le personnage pourrait prendre cet arc final sans être trop largué justement pour peut-être voir ce que donne le personnage de Constantine dans un autre univers, ceux qui ne connaîtraient que la version DC New 52 d'aujourd'hui?
Je pense que tu peux comprendre. Tu peux comprendre. Alors par contre, il y a des personnages qui font allusion à certaines choses que bah du coup tu vas pas saisir forcément, mais tu peux comprendre l'histoire. Tu peux commencer par là, ce serait un peu bizarre, mais tu peux commencer par là parce que moi j'ai loupé plein des histoires enfin plusieurs des histoires récentes, plusieurs des arcs récents et je comprends tout à fait ce qui se passe là. Maintenant, effectivement, quand il parle de telle personne qui a fait tel truc récemment, je me dis bon bah j'ai pas vu ça, mais enfin je comprends de quoi il retourne. Donc c'est pas problématique. On pourrait éventuellement lire ce dernier arc pour se faire une idée de ce qu'était la série. Bon,
Est-ce que
pourquoi
oui
pas.
voilà, est-ce que ça donnerait vraiment une idée de ce qu'était le personnage de Constantine chez
Ah oui.
Vertigo aussi?
Bah
D'accord. Non, mais
oui, je pense bien.
c'est
Oui. Totalement, ouais. Et je pense que
D'accord,
là,
bah.
pour le 300, il nous prépare quand même un final digne du personnage aussi.
Justement, ça peut peut-être donner envie à certains d'aller prendre un ou deux numéros, ce qui reviendra moins cher que s'acheter un TPB, voir si ça leur plaît, et puis ensuite, pourquoi pas se
De toute
lancer.
façon, voilà, ce dernier arc est en trois parties. Donc,
Justement, c'est pour ça que c'était le but de ma
Par
question.
contre, c'est
Ça vient
un
à pas
peu
très cher.
bizarre. Ouais, ce serait un peu bizarre, pareil. Par contre, peut-être de commencer vraiment par le dernier, c'est-à-dire de savoir comment se conclura l'histoire avant même de lire les autres histoires auparavant. Enfin bon,
Oui, enfin, en même
pourquoi
temps,
pas.
John Constantine, c'est pas la première fois qu'il meurt.
C'est vrai,
Voilà.
c'est vrai.
Donc finalement, va-t-il s'en sortir à la fin ou pas? Justement, ça reste un petit peu la question, mais vu que c'est un gros enfoiré, est-ce qu'il mériterait pas de crever finalement? Bon,
Ah, ça
enfin,
dépend.
je sais pas, c'est. Voilà, en tout cas, ça donne envie de voir ce dernier numéro, voir comment conclure ce run qui existe depuis 1988, quand même. Mine de rien, ça fait une sacrée paix. On va passer maintenant à DC, justement, avec la sortie du gros blockbuster de la semaine. C'est le Justice League numéro 16, toujours scénarisé par Geoff Johns, dessiné par Evan Ris, ancré par Joe Prado. C'est donc le crossover Throne of Atlantis, donc la patrie d'Aquaman, hein, qui décide de péter la gueule aux gens qui vivent sur la Terre, hein, tout simplement. Ils en ont marre de se faire tirer dessus des bombes, d'avoir des essais nucléaires, et donc ils ont décidé de se venger. Et pour ça, on va attaquer les plus grosses villes, Gotham, Metropolis, etc.
Bah, c'est surtout qu'il y a eu quand même, précisons, un début un petit peu à la Civil War, c'est-à-dire que quelqu'un dans l'ombre orchestre un incident diplomatique, on va dire.
Bah, ils se sont pris un sous-marin nucléaire dans la gueule, quoi.
Voilà.
Donc, oui, voilà, tout cool, simplement. Quoi. Mais c'était donc la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Hein.
Ouais.
Ils en avaient déjà ras-le-bol des gens de la surface.
Ouais.
Et là, ça a été la petite goutte d'eau, si on peut dire. Je suis en train de me rendre compte de ce que j'étais en train de dire, en fait. Du coup.
Tu vas te faire péter la gueule par les Atlantes.
Du coup, la Justice League intervient, puisque les plus grandes villes du pays sont menacées, et surtout les villes où ils sont présents, Metropolis et Gotham notamment. Et donc vont essayer de voir aussi avec Aquaman quel est ce problème avec les gens d'Atlantis. Et finalement, Aquaman, essayant de calmer le jeu, n'y arrive pas des masses, puisque ses équipiers ont décidé de lui mettre un petit peu des bâtons dans les roues, disant
il
attaque
prenne...
la Terre, on va lui péter la gueule, hein, tout simplement, à ton ordre là. Ça beau être ton frère, on s'en fout. Alors que lui, il est là, mais calmez-vous, je vais essayer de régler la situation. Pour une fois qu'Aquaman est à peu près tempéré. Ce qui nous change, hein, de l'arc qu'on avait pu voir avant, l'arc The Others, où le mec pétait les plombs et décidait d'aller tout faire lui tout seul.
Disons qu'il connaît les coutumes atlantéennes et c'est un peuple qui a l'air d'être beaucoup basé sur l'honneur et sur certaines choses. Et voilà.
Benny, oui.
Justement, le truc qui m'a un petit peu dérangé finalement cet épisode, c'est comme tu viens de le dire, tu disais l'arc précédent, mais l'arc précédent d'Aquaman.
Oui,
parce
d'Aquaman,
que là c'est Justice League. Et justement, on a tellement l'habitude de voir Evan Reis sur Aquaman, et là c'est tellement centré sur le personnage d'Aquaman, cet épisode de Justice League, qu'on en oublie même qu'on est en train de dire Justice League. Et moi je me dis, oui effectivement Aquaman ça redevient attrayant. Et j'ai toujours l'impression de lire Aquaman maintenant, alors qu'au fait c'est Justice League. Et il manque aussi, curieusement, Green Lantern n'est pas là, Flash n'est pas là, on a vraiment la trinité pour le moment qui est présente, donc Wonder Woman, Superman, Batman autour de d'Aquaman. Bon, c'est pas mal. Là j'ai vraiment senti le gros côté blockbuster sur cet épisode.
Tu en oublies quand même, je veux dire, moi j'ai trouvé c'est plus ce cyborg qui est même presque mis en avant dans ce numéro.
Oui, qu'il essaye de nous imposer depuis le premier numéro de la Justice League.
Je suis plutôt d'accord avec Steve. Il essaye de nous l'imposer. Pour le moment, moi, je suis toujours pas convaincu.
La sauce prend pas, quoi. La sauce peut pas prendre, franchement.
Il m'intéresse pas.
Je sais pas. Moi, je trouve ça cool, moi, ce qui se passe avec Cyborg.
Mais attends, Cyborg, depuis le premier épisode, c'est oh là là, j'ai eu des problèmes. Il faut vite me mettre des upgrades parce que sinon, je vais crever. Donc, on le transforme en robot. Ensuite, je sers à téléporter l'équipe. Et dans ce numéro, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il téléporte des gens et il va se mettre
des upgrades. Ouais.
Par contre, j'ai bien aimé la fin, par contre, que effectivement, je me suis dit ah, voilà. Bah alors.
Ouais, mais ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe.
On a aussi beaucoup de révélations concernant l'univers, puisqu'on revoit les fameux scientifiques, hein, de l'univers DC classique que l'on connaissait, donc réinterprétés façon New 52. On nous parle des Metal Men, on nous fait comprendre que peut-être on va faire venir Red Tornado, donc on introduit peu à peu des personnages.
Bah.
On donne une espèce de substance à l'univers DC, j'ai envie de dire, il était un peu temps. Geoff Johns est quand même censé être le Chief Creative Officer.
Bon, bah justement. Voilà. Justement, est-ce que Geoff Johns n'est pas en train de nous annoncer que l'un des futurs titres à débarquer, c'est soit Metal Men, soit peut-être Red Tornado? Je penserais plutôt à Metal Men.
Ouais, mais Metal Men, honnêtement, j'ai du mal à... Enfin, oui, pourquoi pas, mais est-ce que le concept tiendra plus de 8 numéros? Je suis pas certain, parce que les dernières incursions des Metal Men étaient vite oubliées, hein, dans l'univers pré-New 52.
Enfin, à partir du moment où on a Vibe, tout est possible.
C'est vrai. Kinyat, justement, toi, tu en penses quoi de cet épisode?
Ouais, bah pareil, hein, comme vous disiez, hein, c'est très blockbuster, ça se lit vraiment de façon agréable, c'est très beau, hein, c'est du Evan Reis vraiment à son plus haut niveau, avec de très belles splash pages, enfin l'arrivée du frère d'Aquaman et avec son armée est sublime. On a un Superman qui s'énerve à un moment aussi, c'est très très beau. Voilà, il y a des petites pistes qui sont amenées sur l'univers DC, ça c'est bien. Je trouve que justement le personnage de Cyborg, moi je le trouve intéressant. Il y a à la fin, on a des nouveaux persos, des trucs qu'on, enfin il y en a surtout un qui est assez mystérieux, qui est une création, j'ai l'impression. Donc voilà, il y a plein de petits...
On peut dire son nom, hein, de toute façon personne ne le connaît, Gold Rush, j'imagine.
Ouais, Gold Rush. Voilà, une nouvelle création, on sait pas d'où ça vient. Est-ce qu'il y a un lien avec les Metal Men, je sais pas. C'est quand même un bon titre avec lequel on passe un bon moment.
Bah, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure que ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, genre oh là là, on va appeler d'autres personnes pour nous aider. Ouais, d'accord, mais c'est surtout les personnages que l'on voit au casting de Justice League of America.
Oui,
la série à sortir le mois prochain. Il était temps que Jeff Jones nous les introduise, quoi. Parce que, enfin voilà, comment justifier qu'il y ait une nouvelle équipe de Justice League si on ne les a jamais vus dans Justice League tout court?
Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, tu lis Avengers de Hickman, voilà, même chose, hein, c'est le même scénario en fait. Grosse menace, allez hop, on va rappeler du monde.
Oui, mais d'accord, mais là disons qu'il est temps qu'ils les introduisent un tout petit peu dans la série, puisque rappelle-toi que Justice League démarre au mois de février. JLA, quoi.
Ouais.
Donc il était temps. On en parlait avec King Edge juste avant d'enregistrer l'émission. Je lui disais, franchement, je pense que le backup Shazam est vraiment de trop, pas parce qu'il est pas bien, mais ils auraient mieux fait de mettre Shazam dans une série régulière à côté qui, elle, se serait vendue simplement par le nom de Jeff Jones et Gary Frank, et puis utiliser les backups pour peut-être nous présenter ces personnages-là, comment ils en sont venus à connaître la Ligue.
Ouais.
Puisque sur les personnages que l'on voit qui vont être contactés par Cyborg, on ne sait pas s'ils répondront à l'appel ou pas, mais en tout cas ils vont être contactés par Cyborg, on voit Shazam. Or Shazam, dans le backup, il n'en est qu'à ses débuts. Comment a-t-il rencontré la Ligue, on ne sait pas. Tout ça, c'est pas grave.
En même temps, tant mieux pour nous, parce que Shazam, c'est toujours un contenu de qualité, et avoir ça en bonus, bah, finalement, ça fait que Justice League est quand même un bon titre, quoi, à voir.
Là, cet épisode, moi, je l'ai vraiment trouvé bien parce qu'il a vraiment ce côté blockbuster. C'est étonnant que je dise ça parce que, franchement, j'ai toujours les montagnes russes avec Justice League. Il y a un épisode qui me saoule profondément. L'épisode d'après, je vais le trouver pas mal. Un autre, je vais le trouver ça bien. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas dit que c'était bien, mais
depuis le début de Throne of Atlantis, je trouve que c'est. Enfin, moi, ça m'intéresse en tout cas.
En même temps, il y a deux épisodes, quoi, pour le moment.
Trois, en fait, avec celui-là.
Avec Aquaman, ouais.
Oui, mais si tu comptes Aquaman, d'accord, mais en termes d'épisode de Justice League...
C'est un crossover qui est vraiment avec les numéros à lire les uns après les autres. Parce que si tu lis pas Aquaman, il te manque quand même un gros morceau du crossover. Hein.
Là, au moins, Jeff Jones nous a fait un vrai crossover, ce qui ne sera pas le cas des choses dont on parlera tout à l'heure. Mais là, au moins, il a eu la chance de nous faire un vrai crossover. Donc, on peut s'estimer heureux. Au moins, on a une véritable menace qui se poursuit de numéro en numéro et on n'achète pas des numéros pour rien.
En tout cas, moi, il y en a un que je trouve louche, c'est Vulko. Vulko, je suis sûr qu'il nous cache des trucs.
Bah, il cache du citron.
Déjà.
Ouais. Grillé par la fraîcheur.
À mon avis, mais il est louche, lui.
C'est toi la fraîcheur, Steve?
Ouais, c'est moi.
D'accord.
Mais le mec qui tousse toutes les deux phrases, c'est moi la fraîcheur. franchement, s'il devait faire un film Justice League, hein, chose qu'ils sont normalement en train de nous préparer, il pourrait très bien utiliser ce scénario-là pour faire un gros film d'action, et ça servirait à tout le monde pour comprendre qui est la Justice League.
Ah bah Michael Bay, à la réalisation, bien sûr.
Franchement, ça pourrait être un très bon film, quoi. Je verrais bien ça sur grand écran, personnellement.
Oui.
Ah, ça serait impressionnant, ouais, mais... Bah, peut-être déjà le premier arc avec Darkseid et puis après celui-là.
Ça, c'est un peu chiant par contre.
Bah ouais, mais c'est ce qu'ils ont. C'est les rumeurs, ça tournerait plutôt autour de Darkseid et de la formation de la Justice League, comme le
mais
premier.
Mais Darkseid qui prend l'eau, qui prend la mer un petit peu. Ils ont qu'à faire les deux à la fois.
On va parler un petit peu du backup Shazam. Le docteur Sivana continue d'aller réveiller les péchés.
Ouais, c'est un peu, ça m'a un peu déçu ce backup. Hein. Le précédent était beaucoup mieux, il se lisait.
C'est pour ça que j'aurais aimé une série, quoi. Plutôt qu'avoir des bouts de 10 pages, autant avoir 20 pages d'un coup, on serait satisfait, ça se vendrait, ce serait toujours très bon.
Et le problème, c'est peut-être Gary Frank. Gary Frank peut peut-être tenir 10 pages tous les mois, mais 20, c'est peut-être trop pour lui, quoi, par mois.
Pas mon problème à moi, ça. Non, je plaisante. Mais ouais, je sais pas, moi je préférerais le lire par coup de 20 pages quand même que par bout de 10 pages. S'il y a toujours pas assez, en fait.
Ah, c'est le petit bonus, hein. C'est le petit bonus et c'est quand même de bonne qualité.
Ah, carrément, bah oui, alors là, c'est pas...
Donc, bon, On va pas trop.
C'est vrai que 10 pages de plus pour l'équivalent d'un dollar, on va pas trop se plaindre non plus, quoi.
Ouais, ouais.
Mais bon, ça prend quand même son temps. On en est quand même au chapitre 8 et finalement, quand tu regardes, il s'est pas passé grand chose.
Bah, en fait, il faut arriver à ce chapitre-là pour revenir à la première image qu'on voyait dans le premier backup, en fait.
Au fait, si tu mets bout à bout quand même, ça te fait grosso modo 4 épisodes. Enfin, il y en avait eu un.
Ça fait 80 pages, ouais, ouais.
Ouais.
Ouais, 90,
plus, plus parce qu'il y avait eu le 0 qui était 20 pages exprès sur Shazam, ouais.
C'est pour ça que je dis ça, mais du coup.
Ça
voilà.
Fait 90 pages de comics, quoi.
Mm. Ouais. Bah, quand même, il s'en est passé, je trouve. Enfin bon.
Bah, je trouve que l'histoire, en termes de temps, n'a pas avancé des masses, quoi. Mm. Mais bon,
bah là, ça la lecture est sympa. Vraiment,
disons, le fait que ce soit délayé de mois en mois en mois, comme ça. La pilule passe plus facilement. Honnêtement, lecture en TPB, je suis pas certain si on va pas se sentir un petit peu floué et que ça prend vraiment trop son temps pour en arriver là. Voilà, c'est
bon.
En tout cas, bye pour moi.
Bah bye aussi. Hein.
Oui, oui, pareil.
On va continuer avec le 16e épisode de Wonder Woman, puisqu'on était sur la Justice League. C'est le compagnon tout rêvé. King Ed.
Donc Brian Azzarello toujours au scénario, Cliff Chiang pour ce numéro, au dessin. La quête de Wonder Woman pour retrouver le bébé de Zola. Pour cela, elle recherche tous les enfants qu'a eu Zeus pendant le 20e siècle. Et là, en fait, elle cherche un des enfants qui est capable de pouvoir voir un peu tout ce qui se passe dans le monde. C'est un personnage qui est assez étrange. J'ai bien aimé son design et j'aime bien son pouvoir, en fait, puisqu'il est relié à tout ce qui est insectes. En fait, son corps est fait d'insectes. C'est un peu dégueulasse, mais du coup, il est capable de voir tout ce que les insectes voient dans le monde entier. Et donc, bon, c'est la personne à contacter pour retrouver quelqu'un. À cette histoire se greffe aussi le retour des New Gods et en particulier d'Orion, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et qui combat Wonder Woman.
Ah oui, la soupe d'Orion. C'est bien connu.
Voilà.
La soupe à l'Orient qu'on met à tous les mariages.
La soupe à l'Orient, oui. Ouh là là. Et donc bon, c'est Azzarello vraiment qui prend son temps, il développe son histoire avec le petit rythme, le même depuis le premier numéro. Quand on est fan de la série, c'est vraiment toujours un vrai plaisir à découvrir les nouveaux chapitres. Il y a des petits mystères, ce fameux premier enfant de Zeus qui a l'air d'être très puissant, qui veut un peu se venger de tous les autres dieux qui est introduit là. Orion, par contre, j'étais un petit peu déçu parce que mine de rien, je trouve qu'il a été introduit, mais on voit pas trop dans quel but. Même si il place quelques pistes pour un futur arc en rapport avec lui, je trouvais que c'était peut-être un peu forcé. N'empêche que c'est toujours aussi beau. Moi, j'aime beaucoup le Cliff Chiang. Il y a toujours beaucoup d'humour dans les dialogues. La relation entre Zola et sa belle-mère est toujours aussi amusante. Voilà. Pour moi, c'est quand même une très bonne lecture et c'était mon coup de cœur de la semaine. Donc, un bail.
Tu l'as lu toi aussi, Benny?
Oui, je l'ai lu. Écoute, déjà, alors, j'avais envie de te dire, elle cherche le fils de Zola. Faut qu'elle aille dans la dimension Z. Voilà.
C'est pas la même.
Pour la petite blague. Mais ouais, c'est pas la même continuité malheureusement, donc elle aura du mal à le trouver. Mais par contre, c'est comme tu dis du Brian Azzarello dans ses œuvres, c'est-à-dire que le mec utilise énormément de personnages au point que ça en devient parfois confus de savoir qui veut quoi. Quel est le but de chacun? Il y a tellement de personnages qui ont chacun des plans personnels que tout se croise et faudrait que je relise quasiment les 10 derniers épisodes pour vraiment capter tout ce qui se passe, quoi. Bon, c'est pas mal. Moi, je trouve ça sympa. C'est pas mon coup de cœur, loin de là, mais c'est toujours sympathique. Donc, okay. Ouais, un check-it, quoi, pour moi.
Ok, on continue avec toi, justement, Benny, qui va nous parler du 16e épisode de Red Hood and the Outlaws.
Alors, toujours Scott Lobdell au scénario. Par contre, malheureusement, Timothy Green 2 au dessin.
Ah, encore lui.
Alors un scénario assez sympathique cela dit, puisque Arsenal fait équipe avec les Teen Titans pour retrouver à la fois Red Robin et Red Hood. Donc ça permet vraiment il y a aussi Starfire d'ailleurs, j'ai oublié Starfire. Mm-hmm. Starfire est là aussi avec Arsenal, avec les Teen Titans, donc ça permet de reformer un petit peu cette équipe qu'on connaît bien des Teen Titans de base. Et en fait, ils affrontent une espèce de gang de jokers. Alors, c'est des sans-abri sur lesquels on a expérimenté un gaz qui les a transformés en jokers fous, c'est Aze Space. En fait, il se passe aussi pas mal de choses en parallèle. On a un personnage qui revient, alors à mon avis, qui va apparaître dans quelques temps dans Redwood and the Outlaws, enfin, qui va être le grand ennemi de la série, c'est le Docteur Strange. Donc moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ce personnage que j'adore.
Hugo
Et
Strange.
le Docteur Strange, alors rien à voir avec le Docteur Strange de
Oui,
Marvel, hein,
Hugo.
le Hugo Strange, l'espèce
Merci
de
d'avoir
savant
précisé,
fou.
Kinghead, parce que moi aussi, je suis en train de me dire, hein, quoi?
Et puis il y a aussi Deathstroke, en fait, qu'on voit et qui apparemment a mis la tête des Outlaws à prix. Donc en fait, il y a pas mal de petites intrigues comme ça qui sont développées en background et qui vont éclater dans les prochains épisodes après le crossover, puisque là c'est tie-in à Death in the, of the Family, voilà. Et donc, toujours un bon titre, une bonne lecture, malheureusement un petit peu torpillé par les dessins, on va le dire, assez dégueulasses, hein, de Timothy Green 2. C'est vraiment les années 80, enfin 90 plutôt d'ailleurs, mais le mauvais côté des années 90. Je sais pas comment il peut dessiner cette série-là, c'est vraiment dommage.
Bah, en tout cas, ça a l'air d'être quelqu'un qui est vraiment apprécié puisqu'il travaille chez Marvel, il travaille chez DC. J'imagine que ça va être quelqu'un qui va être assez rapide pour l'avoir sur
Oui,
autant de projets.
voilà,
Et je
probable,
pense que
c'est
c'est pour
probable.
ça que, et c'est peut-être aussi pour ça que dans son style, ça s'en ressent. Il y a beaucoup de dessinateurs ou d'encreurs comme ça qu'on fait appel, à qui on fait appel, pardon, quand bah, il reste pas beaucoup de temps parce que le dessinateur principal n'a pas pu terminer ses pages ou il a pris trop de retard. On dit, bah écoute, tiens, j'ai 20 pages à faire pendant 2 semaines, tu peux? Et quand tu veux manger, tu dis oui, quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, je tiens même à préciser, parce que j'y pense d'un seul coup, il y a même une petite, peut-être une intrigue sentimentale qui pourrait se développer entre Arsenal et Wonder Girl. Donc, non, franchement, il y a de bonnes choses.
Il y a de la matière, ouais.
Il y a de la matière. Scott Lobdell met en place plusieurs choses. Et alors, il reste ou pas Scott Lobdell? Je sais jamais sur
Malheureusement,
Redwood.
non, il va
Non,
s'en
non.
aller, hein. Il va être remplacé par. Je ne sais même plus. Je me demande si
Ouh,
c'est par Ray Fawkes qui reprend Redwood.
Je crois
bah,
pas, je ne sais plus, mais
en tout cas, j'espère
il
que
y aura un
c'est.
nouveau dessinateur aussi, normalement.
Bah, j'espère que le prochain scénariste va justement reprendre ces intrigues-là qui sont posées par Lobdell, sans doute, puisque ça doit être pour ça, au fait, qu'il les pose, quoi, pour celui qui va prendre le relais. Donc voilà, donc pour moi, c'est un petit bail. C'est, encore une fois, c'est pas la série du siècle, mais c'est vraiment pas mal, j'aime bien.
Ok, on va continuer avec un autre crossover, puisqu'on va cette fois-ci sur la franchise Green Lantern, le Green Lantern numéro 16, toujours Rise of the Third Army. Enfin, devrais-je dire, était-ce vraiment Rise of the Third Army un jour? Jeff Jones et Doug Mankey sont au crédit. On va suivre donc Simon Baz qui va rencontrer, enfin qui a déjà rencontré à la fin du dernier épisode le fameux Green Lantern écureuil, hein, voilà.
Ouais.
Et il est lavé de tout soupçon, hein, d'ailleurs, puisqu'il avait découvert le fameux gars qui avait piégé le van explosif dans lequel il avait été retrouvé au début de sa première apparition, qu'il avait fait passer pour un terroriste, parce que oui, c'est un arabe, donc forcément, un arabe plus une explosion égale terroriste.
Ah oui.
Bon voilà, il va découvrir un petit peu son pouvoir, il va apprendre la super formule secrète des Green Lanternes pour recharger leur batterie, il va retrouver la batterie, il va découvrir le message caché dans sa bague de Sinestro et Hal Jordan. Bon, l'épisode est pas mal, hein. Honnêtement, l'épisode est pas mal, il est beaucoup mieux que ce que on avait pu voir. Enfin, honnêtement, c'est peut-être l'épisode le plus intéressant avec Simon Baz que j'ai pu lire depuis qu'il est apparu, c'est-à-dire depuis le numéro 0.
Je suis d'accord.
Cependant, ça reste faible. Franchement, Jeff Jones nous habitue à tellement mieux sur du Green Lantern, mais là, je m'ennuie. C'est incroyable, je m'ennuie. J'ai l'impression qu'on réutilise des intrigues encore et encore. Les gardiens qui deviennent fous, et il y a le problème avec Black End, et voilà, il y arrive une nouvelle armée super puissante. Bah, c'est pas les Manhunters cette fois-ci, c'est la Sœur d'Armée.
Ouais,
J'ai
enfin
l'impression
ça, ça.
qu'on écule vraiment les vieilles ficelles et que. Pour moi, James Jones n'a plus rien à dire sur Green Lantern. Je peux me
Ouais,
tromper,
il y
j'espère
avait.
me tromper, mais.
Là, l'épisode, néanmoins, c'est pas vraiment là-dessus, c'est vraiment centré encore une fois sur Simon Baz. Mais par contre, effectivement, c'est long, hein. C'est long, cette introduction de Simon Baz. Au fait, ça démarre vraiment à la fin, on se dit, ah tiens, ça va devenir intéressant. Donc après, il faudra aller voir Green Lantern Corps, on va en parler. Mais voilà, c'est vrai que la Sœur d'Armée, on la voit pas. Alors, Certes, Simon Bass fait partie de cette histoire autour de la Third Army et va être lié aux événements de la Third Army, mais
ouais,
bon,
mais pas
ça
dans
fait un
son
peu
titre.
gros. Oui, enfin,
Pas dans son
ça fait un...
titre. Quel était l'intérêt de mettre Rise of the Third Army sur la cover, quoi?
Oui, voilà, c'est ça qui est un peu gonflé. Bah, oui, enfin, il va être lié à ces événements, donc comme c'est un nouveau personnage introduit au cours de ce crossover, on te met le tag quand même. Je pense que c'est pour ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu gonflé, et puis bah, y a toujours cette intrigue avec Hal Jordan et Sinestro prisonniers
Bah
en
c'est ça,
prison.
oui.
Oui, on
Mais
les voit sur une page dans chaque épisode, quoi.
là, ça commence un peu à se dénouer cette histoire. On commence un peu mieux à comprendre ce qui se passe. Moi, il y a un point sur lequel vous êtes pas revenu, c'est quand même sur un des pouvoirs de base qui a l'air d'être quand même particulier, puisqu'il fait quelque chose que les Green Lanterns normalement ne font pas vraiment. Et
Il fait
ça, j'ai
caca.
trouvé ça intéressant.
Oui, mais c'est facile à comprendre, ça, pourquoi? Enfin, pour moi,
Ah.
j'ai trouvé que c'était super simple à comprendre. C'est
Oui, bah après c'est il va falloir, enfin je sais pas. Après moi je sais pas comment Jeff Jones va revenir là-dessus, mais
Ah,
c'est quand même un point qui est intéressant.
honnêtement, pour moi, c'est simplement parce que on le sait très bien, la bague a mal fonctionné au moment où elle a choisi un nouvel hôte. Il y avait la volonté de Sinestro, la volonté d'Hal Jordan, et du coup, les deux se mélangent. Et sachant qu'ils sont prisonniers actuellement dans la bague noire, voilà. Enfin, pour moi, le principe est vraiment, mais tout con, hein.
Et dites-moi si
D'accord,
je me
bon,
trompe, mais
peut-être.
c'est à la fin de cet épisode qu'on voit ce qui se passe avec Hal Jordan et
Oui,
Sinestro?
c'est dans
Oui.
celui-ci, oui.
Alors bon, la fin m'a quand même m'a rattrapé un peu la lecture. J'ai hâte quand même de voir ça.
Ouais, mais bon, comme je dis, une page par épisode de vraiment, vraiment intéressante. Le reste est sympa, mais sans plus. Voilà, ça fait plusieurs numéros que ça dure quand même, quoi. C'est ça, j'aimerais que
Mais
ça démarre un petit peu,
le
quoi.
problème de Jeff Jones, c'est qu'il essaye tant bien que mal d'essayer de nous intéresser à des personnages qui représentent des minorités ethniques, enfin des minorités, pas des minorités, mais des différentes ethnies, quoi, je sais pas comment le dire mieux que ça. C'est-à-dire il y a Cyborg qu'il essaye de placer comme personnage intéressant. Là, il a créé Simon Baz, et vraiment il croit en Simon Baz et il essaye de le rendre intéressant et de le rendre important.
Moi, je
Et
le trouve cool, Simon Baz.
Mais je trouve qu'il quand même il rame un peu, c'est un peu long.
Franchement, moi, ça me fait vraiment
Franchement.
penser à un personnage des années 90, quoi. Flingue, et voilà,
Ouais.
quoi. Et tête brûlée. Je
Mais
veux dire, bon,
il est
tête
plus
brûlée dans les Green Lanterns.
intéressant que Stewart enfin, je veux
Ouais,
dire
mais enfin, en même temps, c'est facile, malheureusement.
Ouais.
D'être plus intéressant que John Stewart, ouais.
Bah, parce que Stewart, j'ai rien de. Pas une histoire de lui que j'ai retenu, quoi, c'est ça le
Bah, depuis
problème.
les années 80, ouais, Stewart, il est un peu. Voilà. Stewart,
Ah,
on l'a
depuis la
gardé parce
destruction
qu'il
de
était dans la
Xanfi,
Justice League,
ouais.
le dessin animé, c'est tout, hein.
Mais non, moi j'aime bien le cinéma de base et enfin bon, après j'ai trouvé qu'il y avait les meilleures scènes avec lui cette semaine, c'était après dans Green Lantern Corps, donc
Ouais, voilà.
voilà.
Bon, bah, cet épisode, comparé au reste, est un bail, c'est sûr. Maintenant, en termes d'intérêt, check it plus, quoi.
Ouais, check it plus
Voilà.
aussi pour moi.
Pareil.
On va justement passer à l'autre Green Lantern sorti cette semaine. Enfin, l'autre, non, parce qu'il y en avait trois cette semaine d'ailleurs. C'est peut-être un peu trop. On avait donc Green Lantern Corps et New Guardians, qu'on n'a pas lu hein, cette semaine pour le podcast. Trois Green Lantern d'un coup, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ils avaient jusqu'à présent bien étalé sur les différentes semaines. Là, ça, j'ai l'impression que la machine commence à dérailler un petit peu hein, sur les sorties. Ça change un petit peu de semaine en semaine. Donc, on va passer au Green Lantern Corps numéro 16, qui est la suite directe du Green Lantern. Et c'est Kinget qui nous en parle.
Oui, donc c'est scénarisé par Peter Tomasi et dessiné par Fernando Passarine, donc toujours aussi bon au niveau des dessins.
J'adore.
J'adore ce dessinateur, ouais. Et donc là on suit bah, Guy Gardner hein, qui s'était fait qui a démissionné des Green Lanterns et qui s'est retrouvé sur Terre et qui bon, il a un peu déconné dans le numéro précédent, donc il a fini en prison.
Bah, il a déconné, il a juste voulu jouer le justicier sans bague,
Ouais.
et en fait il s'est trouvé en plein
Il s'est
milieu
pris comme
d'une
un pied, hein.
opération policière. Voilà, il a pas forcément déconné, quoi, il a juste fait le
Ouais,
justicier.
mais bon, il s'est un peu laissé emporter, et du coup, bah, il y a 2 ans d'enquête qui sont partis à la poubelle, et voilà. Et donc, c'est même sa sœur qui lui a mis les menottes, et donc, moi, c'est ce qui me plaît, là, dans ces derniers numéros de Green Lantern Corps, c'est ce côté famille, la famille de Guy Gardner, cette famille d'Irlandais, là,
Tu dis ça comme si c'était une tare.
Non, mais ils sont tous flics, ils sont tous marrants. Enfin, j'aime bien la dynamique de
Allez,
la famille.
vas-y, on
Il y
va
a
te filer une carte de RAM.
le père qui est. Non, mais c'est ça. Le père est très drôle puisque pour lui, il ne considère que les gens qui sont flics sont qui méritent le respect, et Guy Gardner, qui est quand même le super flic de l'espace, pour lui il dit ouais, toi c'est facile, t'as un anneau, t'as des pouvoirs, t'auras pas vraiment mon respect. Donc ça, cette relation avec son père était amusante.
Rappelons qu'il avait quand même été obligé en quelque sorte de démissionner de la police, quoi. Donc
et ouais, exactement, et donc ça avait foutu la honte
plus vraiment aux yeux de son père, voilà.
Ouais, ça lui avait foutu la honte, mais bon, il s'est quand même pas mal racheté depuis Guy Gardner, il a un peu sauvé l'univers, quoi. Mais bon,
oui, mais ça personne le sait jamais. C'est comme donc, les gardiens de la galaxie, ils sauvent l'univers, ouais, 50 fois, mais personne le sait.
C'est ça, ouais. Mais donc dans ce numéro, en fait, il est en prison et il est avec sa famille, et il y a cette fameuse sœur d'Army qui l'a, parce que dans, en fait, c'est surtout dans Green Lantern Corps qu'en fait on voit la sœur d'Army qui vient et qui attaque, qui doit tuer Guy Gardner, et là il y a Simon Bass qui arrive avec Budge pour le sauver. Et donc pas mal d'action, pas mal d'humour, puisque Guy et Baz sont des personnages qui ont un peu les mêmes caractères, donc ça c'est pas mal fait. Voilà, c'est franchement très bon, et puis on voit un peu ce qui se passe aussi sur Oa avec les gardiens, et puis le fameux Green Lantern là, qui a, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a tous les bras là, il a plein de bras.
Salak.
Voilà, Salak qui commençait à voir un peu ce qu'ils avaient derrière la tête, et ils ont réglé un peu son cas, donc c'était intéressant, et c'est vraiment dans Green Lantern Corps qu'on a ce rapport avec le crossover, quoi. Donc pour moi c'est un bail cette semaine. J'ai bien aimé.
Tu l'as lu aussi, toi, Benny ?
Oui, et comme King Edge, j'ai bien aimé le côté un peu plus centré sur le personnage de Guy Gardner, mais pas en tant que Green Lantern, en tant que Terrien. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a tendance, dans les séries Green Lantern, à aller voir plus dans l'espace et à mettre de côté leur vie sur Terre. Donc là, c'était bien d'avoir ce côté-là, de développer un peu. Et puis, y avait quand même pas mal d'action. On s'ennuyait moins que dans Green Lantern. Donc oui, pour moi, c'est un petit bail.
Moi, il y a un truc qui m'a fait vraiment rire. Alors, ça n'a rien à voir avec le comic en lui-même, hein, mais ça m'a fait vraiment rire. À la fin du Green Lantern Corps, on a donc dit que l'histoire continuera dans l'annual de Green Lantern Corps qui sort la semaine prochaine, et que ce sera le Epic Finally à Rise of the Sœur d'Ami. Mais j'ai envie de dire, pour que ce soit un Epic Finally, il faudrait déjà que ça ait commencé. Donc moi franchement c'est la scène la plus drôle, c'est l'annonce du prochain numéro, parce que quand on regarde, on a eu donc Rise of the Sword Army depuis le numéro 13 dans toutes les séries Green Lantern, il y a donc 4 séries, ça fait 4 mois que ça dure, donc 16 épisodes. Si on a eu la moitié qui touche vraiment le crossover Rise of the Sword Army, moi je dis bravo. Et je suis franchement déçu, mais vraiment déçu. C'était juste un argument marketing d'avoir mis cette espèce de tag sur la cover. Et honnêtement, je pense que ça va les desservir. Parce que des gens ont sûrement acheté les autres séries Green Lantern. S'ils ne lisaient que Green Lantern ou Green Lantern Corps, ils ont acheté d'autres séries pour voir ce que donnait ce crossover. Et ils se sont retrouvés déçus au final. New Guardians n'a quasiment aucun lien avec Third Army. Une page. Red Lanterns, il y a eu un épisode qui était vraiment centré dessus. Le reste, c'est une page. Ben voilà, Green Lantern, n'en parlons pas.
Oui, c'est surtout Green Lantern Corps, en fait, qui vraiment a respecté le cahier des charges.
Green Lantern Corps, il y a eu deux épisodes vraiment dessus. Donc celui-ci et le numéro 14, parce que le numéro 15, c'était Guy qui faisait sur Terre son petit justicier. Il y avait pareil une page ou deux qui concernaient réellement le crossover. Et après, on nous vend un autre crossover, ce sera Wrath of the First Lantern.
Mais en tout cas, ce qui s'est passé, les événements qui se sont passés dernièrement dans Green Lantern Corps, pour moi, c'était ce qui est le plus intéressant de tout l'univers.
C'était le plus intéressant.
Et puis même l'aventure de John Stewart est plus intéressante. Je veux dire, le mec essaie de reconstituer Mojo. Là, il y a une grosse scène d'action
Mojo,
avec John Stewart. Mogo, pardon. Ça, c'est Spiral tout à l'heure, ça m'a.
Salak et Spiral, bien sûr.
Ouais, c'est le même combat. Même combat. il essaie de reconstituer Mogo. Il fait équipe avec Fatality. Là, au moins, ils font bouger un petit peu le personnage de John Stewart. Il se passe vraiment des choses. Cet épisode est vraiment très bon, surtout en comparaison avec le Green Lantern, qui, même s'il était pas mal, reste très faible. Quand on lit les deux bout à bout, c'est très très faible, quoi.
Puis on est un petit peu obligé, d'ailleurs, disons-le. Hein. Green Lantern et ensuite Green Lantern Corps.
Il te le précise au début de Green Lantern, ça, j'ai trouvé ça bien, déjà, pour une fois. On te dit que c'est à lire avant, enfin que ça se passe avant le Green Lantern Corps, et à la fin du Green Lantern, on te dit d'aller lire la suite dans Green Lantern Corps. Donc là, ça respecte un petit peu le cahier des charges de ce qu'on appelle un crossover, logiquement depuis les années 70, quoi.
Ce que je regrette, c'est qu'ils font plus ça DC. Avant, rappelle-toi, sur Superman, t'avais toujours des numéros.
Ah ouais, le fameux diamant.
Et oui. Et là, c'est ce qui nous manque. Hein. Franchement, c'est ce qui nous manque. Quand t'es en comic shop et que tu vois les couvertures, ok, tu sais que c'est tie-in, mais tu sais pas dans quel ordre. Et tu sais pas ce que... Voilà.
On peut parler justement de... Bon, très vite, hein, parce qu'on a déjà dépassé un peu le temps, mais très vite, on peut parler de ce qui se passe dans Justice League. Actuellement, Batman est en plein crossover Death of the Family, donc complètement absorbé avec le Joker, etc. Et là, pendant ce temps-là, dans Justice League et Throne of Atlantis, on a Gotham qui est ravagé par une inondation et des attaques d'Atlantéens. Il y a des centaines, voire des milliers de morts. Il n'y a aucune mention de flotte à Gotham dans la série Batman, ni dans
oui.
toutes les autres séries Batman d'ailleurs.
Mais je pense qu'il faut considérer que du coup Death of the Family se passe avant, dans la mesure où ce sera terminé aussi avant cet arc. Enfin cet event.
Ouais, mais enfin, c'est un petit peu chiant quoi. Ça reste
ouais,
un petit peu chiant parce
bien
que
sûr, bien sûr.
Certes, c'est sympa de nous-mêmes refaire la continuité, de se dire bon, tiens, ça se passe avant, ça se passe avant, etc. Mais quand tu as à le faire sur 2-3 séries, quand tu as à le faire sur pas loin de 52 séries finalement. C'est un petit peu dérangeant au bout d'un moment. C'est le même problème qu'on a chez Marvel avec le Marvel Now, de toute
mais
façon.
Au fait, ça marche essentiellement par franchise. T'as ce qui se passe dans Batman, ce qui se passe dans Green Lantern, ce qui se passe dans Justice League, ce qui se passe dans Superman.
Mais c'est un peu dommage quand on a un univers partagé, quoi.
Ouais. Bah ouais.
C'est comme je disais, c'est le même problème avec Marvel Now. Hein. Comment placer les événements d'Uncanny Avengers par rapport aux événements d'Avengers, Captain America étant dans les deux. C'est toujours le même problème et c'est pas toujours évident de se repérer. Imaginez, enfin, on dit que nous on est pointilleux, mais imaginez quand même un nouveau lecteur qui se met aux comics, qui va prendre Uncanny Avengers, qui va prendre Avengers, mais comment va-t-il s'y retrouver le pauvre?
Ah,
moi
je
me plains quoi.
Il faut
je veux
du
bien
conseil
qu'on ait,
quoi.
Il faut qu'on ait à faire un petit effort parce que ça, si on nous sert tout cru dans la bouche, c'est un petit peu chiant, mais quand même entre faire un petit effort et devoir faire tout le travail, je sais pas, il y a peut-être un petit juste milieu à trouver. Bon, on va dire que ce serait mon petit badge de la semaine, quoi, si je veux dire ça
moi,
comme ça.
Moi, je suis vraiment intéressé de savoir comment Urban va gérer ses sorties kiosques avec tous ces annuals, en fait, qui deviennent hyper importants maintenant dans tous les arcs, que ce soit Green Lantern, dans Superman et compagnie.
Alors ça, pour ma part, je trouve que c'est peut-être une bonne chose d'avoir réintégré les annuals réellement dans les continuités, puisque jusqu'à présent chez Marvel ou chez DC, les annuals tu pouvais les lire un petit peu à part, c'était autre chose.
Ah, mais
quoi.
Ça je suis d'accord, mais je parle par rapport aux sorties françaises, je sais pas comment
ouais.
ils vont faire. Parce
mais
que...
justement, je pensais à ça à l'instant, deux solutions. Une solution avantageuse pour nous, c'est-à-dire garder le magazine Green Lantern tel qu'il est avec les 4 séries et nous faire des hors-série kiosques avec les annuals, les épisodes en plus. Ou la solution vraiment bâtarde, sortir le magazine Green Lantern avec les séries habituelles et sortir exclusivement les annuals dans la version hardcover.
Ouais, mais donc... justement ça va pas parce que il faut les lire pour pouvoir comprendre
l'histoire.
Il faut les
lire. Tu peux pas les zapper dans le kiosque. Les gens comprendront plus de toute façon.
Ouais. Bah alors ils seront obligés de sortir des hors-séries comme quoi comme
ouais,
ils ont fait
ouais,
déjà.
Ouais,
hein, de toute façon.
Une fois encore, si tu fais un hors-série spécial annual et que tu regroupes, je vais prendre des titres au hasard, mais tu regroupes l'annual de Green Lantern Corps par exemple, l'annual de je sais pas moi Superboy.
De Green Lantern, il y a eu l'annual.
Il y en a plein d'annuals comme ça. Bon, Superboy n'étant pas une série publiée en France, c'est un petit peu le problème. Mais je sais pas, Action Comics par exemple.
Non, bien
qui
alors.
A sorti un annual.
Bien alors.
Détective aussi. Mais
non,
c'est
mais...
là, du coup, tu mélanges plusieurs histoires et ce qui fait que seuls les gens qui
prennent
tout vont les
ce,
acheter.
Ce sera pas comme ça. Ce sera. Ils prendront le crossover dans l'ordre. Et c'est-à-dire qu'ils verront selon la quantité de pages que ça fait. Ils te mettront la première partie du crossover Rise of the Third Army dans le magazine classique. Qui est des annuals ou pas, je veux dire, ils te mettront cette première partie dans le magazine classique et ils te mettront le reste, le surplus dans un hors-série.
À moins qu'ils fassent des magazines plus gros, comme ils vont faire là pour le Batman Saga.
Ouais, mais au bout d'un moment, ils arriveront à
une
limite parce que ils peuvent pas toujours rajouter et puis laisser au même prix.
Bah, surtout là, quand c'est du 40 pages que tu rajoutes d'un coup,
ouais.
Ça sent sur l'imagination quand même.
Et ça sera le petit mystère cette année.
Justement, on va y venir au gros problème qui va se poser très vite dans les kiosques français.
De toute façon avec Night of the Owls hein, le mois prochain hein, comment ça va se passer ça déjà
Night of the Owls oui mais pire que ça Hell on Earth dont on va parler
Le Superboy Annual numéro 1 vas-y je t'en prie
voilà le Superboy Annual numéro 1 donc crossover Hell on Earth donc Hell on Earth rappelons-le c'est un crossover entre les titres Superman Supergirl et Superboy
et
il y a même des parties dans Teen Titans donc attends, je dis peut-être une bêtise, mais si, je crois bien en plus. Hein. Je crois qu'il y a eu des ramifications dans Teen Titans.
King Ed.
Oui, mais légère, légère. Parce que l'équipe est modifiée, du coup, à cause de ça, quoi, mais...
D'accord. Bon, enfin, quand même. Bon, bref. Toujours est-il que Superboy n'est pas publié pour le moment en français. Alors, comment vont-ils faire pour intégrer Superboy, puisqu'il va bien falloir intégrer les épisodes de Superboy pour publier ce crossover en français.
Je mais là, justement, peut-être un tome de librairie pour le crossover en entier, ça pourrait être une solution. Puisque les Supergirl et Superman sont publiés, certes, mais pas Superboy.
Et dans ce cas-là, mettre les épisodes quand même en kiosque ou les sauter et puis je sais pas.
Bon, les sauter, sauf si ça a vraiment des grosses ramifications ensuite sur l'histoire de Superman, mais...
Je sais pas,
ça,
ouais,
va, être, ça va être le bazar.
Ça, ça prête à interrogation, en tout cas, donc sur cet annual qui fait le double de pages de d'habitude, 40 pages, Tom DeFalco est au scénario, et alors au dessin, il y a une ribambelle de personnes, Yvel Guichet, Jonas Trindade, Java... Non, en plus, je te dis n'importe quoi, je t'ai cité un encleur. Yvel Guichet, Iban Coelho, Tom Derenik et Julius Gopez. Donc ça fait 4 artistes différents sur diverses pages. Ils permutent, enfin bon, c'est un peu la valse du n'importe quoi. Graphiquement, ça oscille entre le moyen, le pas terrible, le bof bof, quoi. C'est pas top, quoi, graphiquement. L'histoire, bah, c'est un petit peu une grosse parenthèse de ce qui se passe dans Hell on Earth, c'est-à-dire que Superboy et Superman ont été comment dire, transportés par elle dans un monde, une espèce de planète dans la galaxie, une planète étrange, et au fait ils vont passer tout l'épisode à faire un team-up pour percer les mystères de cette planète qui la dirige et comment revenir, quoi, tout simplement, comment revenir sur Terre. L'histoire de ce qui se passe là-dedans, c'est pas super passionnant, je dois dire. Ce qui est surtout intéressant, c'est le team-up et les relations entre Superboy et Superman. C'est-à-dire que Superboy peut enfin raconter à Superman ses origines, comment il a été créé. Superman s'interroge sur comment le Harvest a eu un échantillon de sang. Ou bien alors si Superboy est bien un clone de lui, ou enfin qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça c'est assez intéressant. Mais sinon, sorti de là, la narration aussi est assez lourde, hein. DeFalco, il commence ses épisodes comme du temps où il faisait Supergirl. C'est-à-dire qu'il commence toujours par je m'appelle Superboy, je suis un clone de Superman, tatatitata. Tous les épisodes commencent par comme ça. Ça devient un peu chiant, quoi.
Bah, c'est pour essayer de récupérer des lecteurs qui ne liraient Superboy qu'à cause du crossover, peut-être.
Ouais, mais c'était pareil sur Supergirl. Tous les épisodes, les 50, les 100 épisodes, les 150 épisodes de la série, je sais plus combien il y en a eu, commençaient par je m'appelle Mayday Parker, je suis Supergirl, tout le temps.
Ah, tu veux dire Spider-Girl?
Spider-Girl, oui, voilà.
Parce que tu disais Supergirl, c'est pour ça que je comprenais pas.
Non.
Je m'appelle May Parker, hein, quoi.
Non, enfin voilà.
Donc, on se mélange dans les univers, bravo.
Donc voilà, et puis oui, Superboy se découvre aussi des nouveaux pouvoirs, enfin, ça m'a franchement ennuyé, hein. J'ai lutté pour en arriver jusqu'à la fin parce que c'est long et c'est pas forcément passionnant, c'est une grosse parenthèse, on peut s'en passer, pour moi ce sera juste un petit check-it à la limite du pass.
Ah ouais.
Voilà, c'est pas bien passionnant. Hein.
Bon bah économiser 4,99€.
Ouais.
On va terminer l'émission avec le petit tour du côté des TPB. On va faire très vite puisqu'on a déjà bien allègrement dépassé le temps. On a cette semaine Secret Avengers par Remender numéro 1. Quelqu'un a envie d'en parler vite fait, dire ce que
je les ai pas lus, mais
j'en ai lu très peu et oui.
Ça sort actuellement
pas
en français, hein, de toute façon. Donc une vingtaine d'euros. On a aussi le TPB de The Culling chez DC cette fois-ci pour 17€. Donc
ouais, et ça comprend du Superboy, du Teen Titans et du Legion Lost.
Oui, c'est ce fameux crossover qui me faisait penser aux années 90, Cyberforce et compagnie, quoi.
Qui avait introduit la série des Ravagers.
Ouais.
On a aussi toujours chez DC le deuxième tome de Green Arrow qui ne sort pas en français.
Non.
Ouais.
C'est pas terrible, hein.
15€. Ça deviendra peut-être mieux d'ici le mois prochain, puisqu'on a un changement de scénariste, on a Jeff Lemire qui reprend la série. Pourquoi pas. On a chez Vertigo cette fois-ci Books of Magic en édition deluxe, en hardcover. Alors c'est 50€. C'est la première mini-série qui avait lancé le titre chez Vertigo. Quelque chose tiré donc de l'univers de Neil Gaiman. Voilà, en version deluxe avec des croquis, une autre colorisation. Pour ceux qui auraient envie de découvrir tout ça. Du côté de l'indé, par contre, on a la sortie du premier tome The Spider qui sort chez Dynamite, écrit par David Lees, qui avait donc écrit le Black Panther, du gros pulp, hein, ouais. Pour ceux qui aiment le pulp.
C'était très space, j'avais checké le premier et voilà, je n'étais pas rentré dedans.
On a aussi, alors là c'est pour les bourses un peu plus pleines, les Iris Archives.
Ah, je croyais que t'allais parler,
je croyais que t'allais parler de, oui, de Frank Shaw, ouais, sur Woman numéro 2, du coup.
Je n'aurais pas osé, mais... oui, donc Iris Archives, une cinquantaine d'euros, c'est le douzième tome, ça reprend le magazine Iris 56 à 60, c'est une très belle édition chez IDW.
Ouais, ouais, tout à fait. C'est une très belle édition, mais néanmoins, en français, rappelons que chez Delirium, nous avons eu un très beau bouquin pour 25 euros, je crois, qui était assez énorme.
Ouais, mais je crois que c'était qu'une compilation, c'était pas la reprise à l'identique.
Oui, ouais, là, tout à fait. Ça a l'air d'être une intégrale.
Ouais. Là, ce sont des intégrales, exactement. Ouais. Ouais. Et enfin, donc vous en parliez, le hardcover Frank Shaw Women, book 2, c'est chez Image, ça vaut 25 euros,
c'est pour compilation, Sam,
c'est un artbook, voilà, des plus belles planches de Frank Shaw, dessinant des femmes, et on sait qu'il les dessine très très bien.
Voilà. Donc si vous avez aussi des bourses bien pleines.
C'est un moyen de vous les vider, voilà. Elle sera faite, celle-ci, comme ça.
Mais ce serait dommage d'entacher un si beau bouquin.
Ben, visez juste ou prenez du sopalin, je sais pas, faites quelque chose. C'est vraiment crade, hein, sur cette fin de
d'émission. Un petit peu, ouais.
Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Il y a encore du bon. Oh oui, j'ai pas donné le prix, hein, le Frank Shaw Women, c'est 25 euros.
Mm. Oh bah voilà, c'est pas cher pour le...
Oui, bah c'est un artbook, hein, c'est surtout un artbook.
Un petit peu de plaisir,
hein.
Oui, non, pour un petit peu de plaisir, c'est pas...
On se retrouve donc non pas la semaine prochaine mais dans deux semaines, puisque la semaine prochaine nous serons à Angoulême, nous n'aurons pas les moyens d'enregistrer une émission à temps, donc voilà, on fait un petit break d'une semaine, rassurez-vous, il y aura quand même un weekly news en début de semaine, et
mais
puis
par contre,
on vous prépare quelque chose. Oui.
Ah, puis je coupe Steve, il va s'énerver. J'allais dire, mais par contre, nous avons les moyens de vous faire parler, donc commentaire pendant qu'on n'est pas là.
Oui, n'hésitez pas. Et puis on essaiera de vous enregistrer un petit truc spécial lors d'Angoulême. On va essayer de s'arranger pour vous faire une petite émission sympathique. Mais bon, ça va dépendre aussi des moyens techniques, de pas mal de choses qui sont pour le moment assez indépendantes de notre volonté.
Peut-être quelques vidéos.
Oui, ça par contre, oui, des vidéos, oui, ça il y en aura. On pourra poster quand on pourra.
Voilà. Vous pourrez vous rendre compte que Bunny et Steve ne ressemblent pas à Scott Snyder et à Jim Lee.
Mais si, mais c'est nous. C'est incroyable. La ressemblance, j'ai cru que c'était nous. Je me suis dit, mince, quand est-ce qu'elle a été prise cette photo et, voilà.
Mardi vous avez le weekly news et puis jeudi pas d'émission puisque Angoulême. On se retrouve donc dans deux semaines pour les prochaines sorties le début du mois de février. Ça va être tendu, encore une fois, il va y avoir beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Et puis bien sûr vous avez le Comic City
nouvel
qui est
book de Frank Shaw.
Vous avez le Comic City qui est sorti hier au moment où on enregistre, donc aujourd'hui, pardon, parce que je dis des bêtises, donc jeudi. Pour tout ce qui est sortie française, et là encore, c'est pareil, quelque chose qui va vous vider les bourses, voire même provoquer des découvertes à votre banque, tellement il y a de bonnes choses à se mettre sous la dent en ce moment en VF.
Je vais écouter ce numéro avec plaisir, auquel je n'ai pas participé.
Et moi aussi.
On se retrouve donc dans deux semaines pour un prochain Comics Weekly. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity, nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr et retrouver tous les anciens épisodes sur le site ou sur iTunes. À dans deux semaines.
Ouais, à bientôt. Ciao.
Ciao.